Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les premiers incendies de l'année dans le sud, dans le Var, les Bouches-du-Rhône, mais aussi l'Aude et l'Hérault, 800 hectares de végétation ont déjà brûlé. Les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin. Nous serons sur place dans ce journal. Est-ce un coup de pression ou un réel soutien? Laurent Wauquiez désavoue la candidature de Bruno Retailleau pour vanter Édouard Philippe. Et la Belgique qui a frôlé l'élimination à la Coupe du Monde. Revenu de très loin, les Diables Rouges s'imposent 3-2 face au Sénégal et filent en 8e de finale.
Le premier gros feu de l'année dans le sud.
800 hectares partis en fumée dans l'Aude et l'Hérault. Deux des six départements en alerte aux incendies. 550 pompiers sont à pied d'œuvre, aidés par d'importants moyens aériens pour lutter contre les flammes. On retrouve Philippine Boulet, envoyée spéciale RMC ce matin à la frontière entre l'Aude et l'Hérault. Philippine, le feu n'est toujours pas fixé ce matin.
Oui, plusieurs fronts restent très actifs, notamment à cause des rafales de vent qui compliquent le travail des pompiers. Au total, l'incendie a déjà parcouru près de 800 hectares. Et ce matin encore, l'odeur des cendres est encore très présente. Un épais panache de fumée blanche est visible à plusieurs kilomètres. Je l'ai aperçu en arrivant sur les lieux. Sur place, les conditions d'accès sont particulièrement difficiles pour les pompiers. La végétation est très dense, il n'y a aucun accès direct au foyer. Donc deux bulldozers ont été engagés pour ouvrir des pistes. À tout ça, il faut ajouter les conséquences du passage de la tempête Nils en février dernier. Les vents avaient couché de nombreux arbres qui alimentent aujourd'hui l'incendie et ralentissent la progression des pompiers. Pour l'instant, aucune habitation n'a été touchée par les flammes. En revanche, plusieurs vignobles sont exposés à l'incendie. Hier soir, 350 habitants ont été évacués par mesure de précaution. Seule une minorité d'entre eux a pu regagner leur logement.
Philippine Boulet, en direct de l'Hérault ce matin pour RMC. Autre département concerné cette fois par deux incendies, les Bouches-du-Rhône. 275 hectares ont brûlé à Alençon de Provence. Le feu s'est réactivé ce matin, attisé par les vents violents. Les flammes sont en revanche fixées ce matin du côté de Rognac. C'est aussi le cas dans le Var, aux portes de Fréjus. Une trentaine d'hectares ont brûlé, provoquant l'évacuation de plus de 2000 personnes dans des campings, mais aussi dans des habitants ont été évacués. Ils ont eu très peur.
Ça fait peur, des flammes, vous voyez des flammes de 10 mètres, 20 mètres au-dessus des arbres. J'ai connu des feux que tu dis ici, mais comme ça, jamais. Quand on les voit à la télé, on les voit de loin, on dit bon, c'est terrible. Mais quand on est à côté, ça fait peur.
Ça fait que 4 ans qu'on est là. On est de région parisienne, donc soleil, la chaleur, tout, quoi. Et puis là, cet après-midi, panique à bord, quoi. On voit les flammes, on voit, ben, on sait plus quoi faire, quoi. On est en panique. C'est comme être sur un bateau en tempête, quoi.
On est descendu immédiatement avec des seaux. On était une vingtaine de voisins. On s'est tous serré les coudes et comme on pouvait. On a réussi à contrôler un tout petit peu avec notre petite force. Et puis après, les pompiers qui ont intervenu. Mais quand c'est près de chez vous, ça fait bizarre.
Et un point de situation sera fait dans l'après-midi sur les feux en cours par Sébastien Lecornu, attendu à Marseille pour une nouvelle cellule interministérielle de crise au sujet du nouvel épisode caniculaire qui se profile, vivement critiqué, accusé d'inaction et d'impréparation. Le gouvernement promet de s'attaquer à l'atténuation du changement climatique et son adaptation.
La chaleur qui impacte les agriculteurs, c'est le cas des éleveurs de volailles notamment.
Ils ont subi de nombreuses pertes ces dernières semaines. Jusqu'à 3 millions d'animaux en sont morts. Alors pour les aider, le gouvernement annonce le déblocage de prêts de trésorerie afin de financer l'adaptation de leurs bâtiments agricoles. Une nécessité pour Erwan Etriard, il est éleveur en Ille-et-Vilaine.
Faut pas faire l'autruche, hein. Il va falloir trouver des solutions. Clairement, on va pas laisser nos animaux mourir comme ça. Ça fait quand même mal au cœur de voir des animaux en souffrance. Nous, en tant qu'agriculteurs, on travaille pas pour ça. Et économiquement, c'est pas gérable. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on est en statique. C'est le vent qui passe dans le bâtiment, qui refroidit. Mais là, comme il y a pas de vent et qu'il y a des grosses chaleurs, bah, au final, ça va pas. Là, en fait, on va repeindre la toiture en blanc de façon à vraiment faire en sorte que la toiture n'absorbe pas la chaleur. On va tout réisoler avec de la ventilation. On est quasiment entre 150 et 250 000 euros. Je pense que ce serait beaucoup plus judicieux d'avoir des prêts à taux vraiment réduit que des prêts trésoreries à court terme.
Puis alors, le week-end qui arrive avec une nouvelle vague de chaleur, est-ce qu'il y aura de nouvelles annulations de compétitions sportives? On se rappelle de l'Ironman de Nice la semaine dernière, d'un meeting d'athlétisme à Paris aussi. Je poserai la question à la ministre des Sports. Ça fait partie de ces questions d'adaptation aux températures caniculaires. Il est 7h05 sur RMC. Marine Le Pen ne fera pas campagne sous bracelet électronique.
Même éligible, elle s'y refuse. Ce ne sera pas possible, dit la chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale, fixée la semaine prochaine en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN à droite, Laurent Wauquiez, désavoue à demi-mot, sans le nommer, le candidat LR Bruno Retailleau et tend la main à Édouard Philippe. Si ce n'est pas un franc soutien Romain Cluzel, ça y ressemble un peu tout de même.
Exactement, Laurent Wauquiez estime qu'Édouard Philippe peut incarner l'ordre, mais il attend tout de même le contenu de son programme pour se positionner définitivement. En miroir, Laurent Wauquiez ne montre aucune marque de soutien envers Bruno Retailleau, le président de son parti, Les Républicains. Un candidat sous les 10% dans les sondages, fait remarquer Laurent Wauquiez, qui appelle à nouveau à une candidature unique à droite, quitte à ce que Bruno Retailleau se retire. Une prise de position qui embarrasse l'équipe du candidat LR. Ce n'est pas idéal, reconnaît un proche, qui tente de dédramatiser. Laurent Wauquiez fait cela uniquement pour emmerder Bruno Retailleau, estime-t-il. Persuadé que le patron des députés veut se venger après sa défaite à la présidence du parti l'an dernier. Pour autant, la place de Laurent Wauquiez au sein des Républicains n'est pas menacée pour l'instant.
Une affaire de Paris truqué qui fait beaucoup de bruit ce matin dans le monde de la pétanque. 9 personnes ont été interpellées hier dans le Var et en Gironde, parmi elles des légendes de la boule, Dylan Rocher, 3 autres internationaux français soupçonnés d'escroquerie en bande organisée pour avoir volontairement perdu un match des Masters 2025 afin de permettre à leurs proches d'empocher 60 000 euros. L'Angleterre et la Belgique ont tremblé hier soir à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Grâce à un doublé d'Harry Kane, les Anglais ont réussi à se défaire de la République démocratique du Congo, 2-1. Ce fut plus dur pour les Belges, menés 2-0 par le Sénégal. Les Diables Rouges égalisent dans les toutes dernières minutes du match pour finalement se qualifier au terme des prolongations 3-2. La Belgique a eu très chaud, Nicolas Pelletier.
Tout sourire après ce scénario à rebondissement, le sélectionneur belge Rudy Garcia résume la rencontre de son équipe.
On avait envie de retourner la table et on l'a fait. Comme deux boxeurs, les équipes ont répondu coup pour coup.
Pourtant, jusqu'à la 86e minute, la Belgique semblait dans les cordes, totalement dominée par le Sénégal. Dès le coup de sifflet final, le sélectionneur des Diables Rouges donnait une leçon tactique à son adversaire.
On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui, à mon avis, une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme.
Le Sénégal avait retrouvé un visage séduisant, très proche de celui de la Coupe d'Afrique en début d'année, avant de s'écrouler en fin de match. Le sélectionneur Paptu accuse le coup.
C'est cruel cette défaite, mais maintenant le match ne dure pas que sur 80-85 minutes. Malheureusement, maintenant il faut féliciter l'équipe de la Belgique qui est passée et nous continuer à travailler.
Éliminés en huitième de finale en 2022, les Belges tenteront de faire mieux face aux États-Unis lundi soir à Seattle.
La team USA est tombeur à 10 contre 11 de la Bosnie, 2-0 cette nuit. Vous l'avez vécu sur RMC. À suivre ce soir, l'un des favoris de la compétition, l'Espagne opposée à l'Autriche, 21h. Le Portugal affrontera la Croatie à 1h du matin. Et puis, il faudra se lever très tôt pour suivre la rencontre qui oppose la Suisse à l'Algérie, 5h demain matin.
Vous la suivrez en longueur, je ne vais pas dire en intégralité. Il y aura quand même le morning RMC demain de 5h à 7h. Mais on va faire une belle place à ce match Algérie-Suisse demain que vous vivrez en direct. Portugal-Croatie à 1h du matin, c'est pas mal aussi. On va être fatigué demain soir. Merci Thibaut Texer.
C'est l'heure à laquelle on se lève, ça va?
Oui, c'est ça. Il va falloir juste avancer. Bon, c'est Thibaut Texer, le journal, merci. Jo est en ligne avec nous au 32-16 à 7h08. Bonjour Jo.
Bonjour.
Vous êtes à Meaux, à Seine-et-Marne, et vous êtes un gamer. Vous aimez le monde du jeu vidéo, Jo?
J'adore, mais bon, faut avouer que là, c'est un scandale.
C'est un scandale, je vais rappeler cette information qu'on développe ce matin. Sony qui annonce qu'à partir de 2028, c'est fini pour les jeux physiques. Concrètement, tout se passera en ligne, dématérialisé. Il n'y aura plus l'objet jeu vidéo qu'on pouvait échanger, se prêter ou revendre surtout. Hein. C'est toute une économie qui change pour les joueurs.
Ouais, bah en fait, c'était un chantier annoncé. Et puis, c'est un débat qu'on a avec des potes depuis que j'ai acheté... La PS5 digitale, parce que je savais déjà ce qui allait arriver. Enfin, je suis pas ultra visionnaire non plus, mais bon. Et c'était un chantier à annoncer, parce que ça fait plusieurs années qu'on nous vend des versions ultimes, des versions collector, ou qui n'ont plus de collector que le nom. Où avant, quand on dépensait 100, 150 euros, ou même 80 euros dans un jeu, on avait des goodies, on avait des trucs à revendre. On pouvait revendre le jeu en occasion. Là, maintenant, le support CD, en fait, c'est plus qu'une clé d'accès qu'on rentre dans la console, qui active un téléchargement.
Ah oui, vous dites. De la même manière, moi, j'ai vu chez Nintendo acheter une boîte de jeux et avoir un code à l'intérieur, en fait, pour aller télécharger le jeu.
Ouais, c'est plus que ça.
C'est déjà fini, vous dites, Joe.
Ouais, c'est déjà fini. Le CD, en fait, le CD maintenant, si on fouille un peu dans le CD, il y aura peut-être quoi, 2-3 sécurités ou quelque chose comme ça. Mais quand on le rentre dans la console, qu'est-ce qui se passe? On télécharge les mises à jour, on télécharge même parfois le jeu.
C'est comme vous le dites, c'est une clé d'accès et plus forcément le jeu en lui-même. Bah, c'est un changement. On va en parler avec Pierre Rondeau dans notre rendez-vous avec l'économie juste après le journal de 8h. Mais ça a fait réagir. Hein. Vous en parliez ce matin, Martin, dans le morning.
Exactement, ça fait réagir Greg, notamment sur WhatsApp 0612 424 424. Ça l'inquiète car les jeux prennent beaucoup plus de place qu'il juste quelques jeux suffisent à saturer la mémoire de la console. Nous dit Greg qui a peur donc de ne pas pouvoir jouer à autant de jeux qu'il aimerait sur sa console.
Bon, vous continuez à commenter, à réagir au 32-16 ce matin. Il est 7h10.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
C'est clair, on a toujours peur. Et du coup, c'est l'angoisse absolue et on n'ose pas appeler parce qu'on se dit s'il est sur la route et voilà. Je n'arrivais pas à m'endormir tant qu'il n'était pas rentré.
C'est la vitesse, c'est l'alcool au volant, c'est le téléphone, la fatigue, il faut savoir s'arrêter toutes les 2 heures.
65% des parents ont déjà passé une nuit blanche lorsqu'ils savaient que leur enfant avait pris le volant pour se rendre à une soirée. Vous êtes comme ça, vous témoignez au 32-16. L'inquiétude des parents et cette exclusivité RMC. 8 parents sur 10 redoutent l'accident mortel quand leur enfant prend le volant. Bonjour Loïc Cuigny.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Direct Assurance. C'est vous qui avez commandé cette étude. Alcool, stupéfiant, vitesse, inexpérience. Aussi, la peur des parents est justifiée. C'est votre parti pris dans une minute sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14 sur RMC et RMC Story. Vitesse, alcool, stup, protoxyde d'azote maintenant. Et puis tout simplement la découverte de la route. C'est une exclusivité RMC. Une étude qui nous apprend que 8 parents sur 10 craignent un accident de la route pour leur enfant jeune conducteur. Vous vous reconnaissez dans cette étude, n'hésitez pas à témoigner. Bonjour Loïc Cuigny.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Direct Assurance. C'est vous qui avez commandé cette étude. Votre parti pris ce matin, la peur des parents est justifiée. Faut dire que l'été, un tiers des morts de la route sont des 18-24 ans.
Yes. En fait, quand on regarde, il y a deux données, moi, que je regarde. C'est la sécurité routière. Quand vous regardez, il y a un peu plus de 3000 morts sur la route en France. Plus de 500, ce sont des 18-24 ans. Donc, c'est 17%, alors que c'est 8% de la population française. Pareil, quand nous, on regarde les chiffres sur nos 2,3 millions de contrats, ben, on regarde qu'ils ont un risque d'accident deux fois plus élevé. Et c'est pour ça que dans le monde de l'assurance, un jeune conducteur, il va payer sa prime d'assurance deux fois plus cher.
Alors, comme on parle de l'été, qu'on est le 2 juillet, je voudrais quand même préciser qu'on s'inquiète déjà particulièrement pour ceux qui viennent de passer le permis. Et pour qui le premier trajet, eh ben, ce sera rouler 6, 7, 8, 10 heures d'affilée pour se rendre sur le lieu de vacances.
Et souvent la première fois. Ouais. Et vous allez le faire avec les copains. Vous allez aller au camping l'été, etc. Et vous n'avez pas cette expérience encore. Et donc, c'est l'été de tous les dangers, ou en tout cas la première fois. Et on le voit parce que l'été, c'est 28% des accidents de la route.
Alors, on s'associe à l'inquiétude des parents. C'est pas pour faire de l'anti-jeune primaire, mais on retrouve chez les jeunes les comportements à risque. La vitesse d'abord.
Ouais.
L'alcool, les stupéfiants aussi. Alors, le protoxyde d'azote, dont on parle beaucoup ces derniers temps, ils se comportent plus dangereusement alors qu'ils ont le moins d'expérience.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que l'intuition des parents, elle est confirmée par la sécurité routière. Vous regardez, en fait, les causes d'accidentologie. Pareil, c'est l'alcool, les drogues, ça augmente le risque d'accident d'un sur quatre, mais aussi beaucoup la fatigue au volant qui va entraîner la vitesse dans 1 sur 3 ou utiliser le téléphone.
Alors, je m'arrête là-dessus parce qu'il faut prendre ce que disent les parents. A priori, ils connaissent leur gamin un petit peu.
Oui.
Et c'est un point intéressant. Les parents placent le téléphone au volant et drogue et alcool au même niveau de dangerosité.
Alors, un peu moins même. Quand vous regardez, vous dites c'est 30% des parents qui disent alcool ou drogue et 60% des parents qui disent le téléphone. Ils ont raison. Regardez les dernières choses sur la sécurité routière. Et vous regardez aussi, il y a une étude qui a été faite par AXA Prévention cette année. Disent 85% des Français, déclarent utiliser le téléphone au volant, en appel, etc. Or, on sait que dans ces cas-là, vous avez deux fois plus de chances d'être flashé ou trois fois plus de chances d'avoir un accident. Donc, ça devient un réel sujet. Le téléphone, vous l'utilisez au quotidien. Eh ben vous dites pourquoi pas au volant aussi.
Et d'ailleurs, on a eu plein de fois le débat sur ces départements qui enclenchent la suspension du permis en cas d'usage du téléphone au volant. Les parents partagent une certitude, leur enfant est imprudent sur la route. Mais du coup, on fait quoi? Quel est le discours qu'ils doivent tenir avec eux?
L'avantage, c'est qu'il y a des solutions et qu'ils les connaissent. Alors, je ne sais pas s'il y a des parents qui nous écoutent, si vous êtes parents, il y a un peu trois leviers. Le premier levier, c'est l'information. Donc ça, allez sur le site de la sécurité routière, vous dites plein de choses. Il y a des super associations du type l'association de Yannick Aleno qui font plein de choses là-dessus pour informer, donner des témoignages aussi d'autres enfants qui ont vécu ça. Le deuxième, la tentation un peu des parents, c'est d'interdire. Donc il y a quelque chose qui existe sur le téléphone, c'est le mot de conduite. que vous pouvez activer pour désactiver un certain nombre de notifications ou les appels. Et le troisième, et moi je trouve, enfin, en tant que parent, c'est le levier un peu le plus puissant, c'est la récompense. De dire, bah, je récompense quand c'est bien passé. Et nous, on a une assurance connectée qui s'appelle YouDrive, ou une application, vous pouvez télécharger gratuitement. Ça vous donne votre score de conduite et ça vous récompense.
Oui, comme ça, les parents pourraient récompenser en fonction du score de conduite.
Exactement.
Je comprends l'idée. Martin, ça fait réagir nos auditeurs.
Ouais, on a Seb qui nous écrit, ses deux fils viennent d'avoir le permis, 20 ans et 18 ans. Pas plus inquiet que ça, Seb, mais il a des raisons. Nous avons acheté une voiture. C'est très clair, au moindre faux pas, la voiture sera revendue. Et nous, on partira en voyage avec l'argent. C'est comme ça qu'on arrive à les tenir, nous écrit Seb sur WhatsApp 0612 424 424.
Ouais, je vais juste dire un mot aussi, mais ça c'est pas l'objet de votre étude, hein, mais quand on parle d'éducation, souvent l'exemplarité, hein, rappelons aussi que les enfants répètent ce qu'ils ont vu au volant de leurs parents. C'est important de le rappeler de temps en temps.
D'où l'avantage, la conduite accompagnée aussi, hein, parce qu'on voit que ça réduit les risques. Normalement, quand vous conduisez avec votre enfant à côté, il vous rappelle aussi le code de la route, parce qu'il vient de le repasser.
Ils sont sans pitié. Merci Loïc Queny, porte-parole de directeur.
Et peut-être juste pour conclure, moi je voudrais dire bravo à ses parents. Bravo parce qu'ils ont les bonnes intuitions, ils sont conscients du risque et ils ont les bonnes intuitions. Donc vous n'êtes pas seul, continuez, il y a des solutions.
Loïc Queny, porte-parole de Direct Assurance, en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup, il est 7h19. Dans un instant, on va remonter l'histoire, remonter le temps avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Historien d'Apolline Matin. 400 mètres de long, 62 de large, 75 de haut, le plus gros porte-container sous pavillon français inauguré au Havre aujourd'hui. Mais alors, qui a eu cette idée de transporter des marchandises par la mer ?
Eh bien, c'est un camionneur américain, Mathieu. Mais les porte-containers vont surtout exploser grâce à la guerre du Vietnam.
Et puis à 8h30 sur RMC BFM TV, l'invité de Marie Chantrey, c'est l'ancien officier du KGB, le russe Sergueï Zhirinov. Et dans moins de 5 minutes, Arnaud Demange va pirater. Il va pirater le KGB. Bon courage, pirater l'interview. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes, même pas.
RMC, Apolline Matin.
7h21 sur RMC, RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, c'est avec vous Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Ça se passe aujourd'hui au Havre, le baptême du plus grand porte-conteneur sous pavillon français.
Eh oui, un géant des mers de 400 mètres de long qui s'appelle le Notre-Dame. Il a été construit en Chine, c'est là qu'il arrive, avec une capacité impressionnante, 24 000 conteneurs, soit l'équivalent de 20 000 camions de fret. Son équipage est composé d'officiers français et son propriétaire, c'est l'entreprise française CMA-CGM, numéro 3 mondial du fret maritime, qui est d'ailleurs aussi propriétaire de RMC BFM.
Mais alors, les porte-conteneurs, c'est pas une invention française.
Américaine, Mathieu, qu'on doit d'ailleurs à un homme qui partait de rien. Cet homme, il s'appelait Malcolm McLean. Son métier à l'origine, au début des années 30, c'était gérant d'une toute petite station de service en Caroline du Nord. Mais il avait beaucoup d'ambition et donc petit à petit, il investit dans le transport routier et en moins de 20 ans, il se retrouve à la tête d'une flotte de 2000 camions qui sillonnent les États-Unis. Sauf que, problème, l'essence coûtait très cher, il y avait des embouteillages, bref, c'était ni pratique et surtout c'était très coûteux.
Et alors c'est là qu'il a l'idée de se tourner vers le transport maritime.
Et oui, McLean rachète deux pétroliers qu'il transforme en bateaux de transport et là, il a une idée qui va tout changer, Mathieu. Cette idée, c'est mettre des grandes boîtes uniformisées sur le pont des navires, les fameux containers. Jusqu'ici, bien sûr, on transportait déjà des marchandises sur les navires, mais ça se faisait un peu n'importe comment, dans des boîtes de tailles différentes, des sacs, des filets. C'était le bazar complet. McLean améliore aussi le chargement depuis le quai, puisque c'est lui qui installe des grues sur le bateau. Bref, tout ça lui permettait de gagner de la place, du temps et surtout, bien sûr, de l'argent.
Et ça va fonctionner ?
Oui, McLean charge son premier navire en 1956. C'était dans le port de la ville de Newark, hein, dans le New Jersey. Au début, ça ne concernait que le continent américain, mais deux ans plus tard, McLean va s'éloigner. Ses bateaux commencent à rallier Porto Rico, Hawaï, et dans les années 1960, tout ça va exploser grâce à l'armée américaine, puisqu'elle va utiliser le service de McLean pour ravitailler ses troupes en Allemagne. Donc là, c'est la conquête de l'Europe. Pareil, pendant la guerre du Vietnam, l'US Army fournit ses hommes en nourriture et cigarettes via des porte-containers. Là, c'est la conquête de l'Asie. Le fret maritime s'impose comme le moyen de transport le plus efficace et le moins cher du monde.
Alors, on doit à cet homme une véritable révolution des transports.
Mais même de l'économie en général, Mathieu, puisqu'aujourd'hui, 80% des échanges commerciaux se font via des porte-containers. Pendant la crise d'Hormuz, hein, quand les Iraniens bloquaient le détroit, on a vu l'impact que ce transport avait sur les prix et donc notre quotidien. Donc oui, Malcolm McLean a changé le monde. Et il y a une anecdote qui résume toute son importance. Quand il est mort, en 2001, tous les porte-containers du monde ont baissé leur pavillon.
Ah, c'est vrai ? Le monde entier.
J'espère qu'on fera ça pour vous, Mathieu.
De brume. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, une chronique à réécouter sur le podcast, en podcast sur l'application RMC. Bien entendu, il est 7h24.
RMC. Demange Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demange.
Et bonjour.
À 8h30.
Ouais, bah ouais, c'est déjà marrant.
En fait, je dis à la radio, il y a un petit problème de siège.
Eric Ciotti était pas là avant moi, ça se voit. Hein. Wow.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV, l'invité de Marie Chantret, c'est l'ancien officier du KGB, Sergueï Zhirinov.
C'est quand même pas tous les jours qu'on a un ancien espion du KGB dans nos locaux. Hein. Alors ça change nos protocoles d'accueil, parce que d'habitude, quand on reçoit un invité en loge, on lui propose un café, un thé. Là, il y a notre rédacteur en chef, Nicolas. Il a proposé un thé à Sergueï Zhirinov. L'autre, réflexe, il lui a fait une clé d'étranglement. Il l'a caché dans un placard. Parce qu'en Russie, quand on te propose un thé, il faut savoir te défendre. Hein. Tu es bourré de plutonium là-dedans. Et alors, il dit qu'il est espion. C'est le deuxième espion le moins discret du monde après James Bond. James Bond, l'agent qui passe sa vie en smoking, à draguer des filles et à picoler du martini, en donnant à tout le monde sa véritable identité. Son chef à l'oreillette, il doit être fou. Mon nom est Bond, James Bond. Chut, il est censé avoir une fausse identité, qu'est-ce que tu fais? Et je travaille pour le MI6. Mais arrête, ta gueule! Alors j'ai lu son Wikipédia à Sergueï, il aurait fait l'école secrète du KGB. Vous saviez qu'il y avait des écoles d'espions? Ça doit être fou. Sortez une copie double et un stylo! Merde, j'ai pas révisé. Heureusement, mon stylo permet de lancer des fléchettes anesthésiantes. Clic, clic, tiou. Qui c'est qui m'a tiré? Et hop, les devoirs sont annulés, c'est quand même pratique. Bon, si ça se trouve, il a juste fait son stage de seconde au KGB, ça va. Avec Poutine comme maître de stage. Ça a l'air flippant comme ça, mais c'est moins dangereux que d'avoir Morandini comme maître de stage à Europe 1. Sergueï Zhirinov vient nous parler de la guerre en Ukraine, qu'on oublie, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse moins à Russie-Ukraine depuis qu'il y a France-Suède ou Belgique-Sénégal. On est vraiment naze, on est des bourrins. Et alors, les drones ukrainiens frappent la Russie maintenant à tel point que j'ai vu un truc fou. Vladimir Poutine a décidé de démolir sa propre maison de campagne. Vous avez vu cette histoire? C'est gueudin. Il a rasé son propre palais de Valdaï parce qu'il a peur que des drones ukrainiens puissent l'atteindre sur place. C'est d'une radicalité toute médiévale. J'ai lu ça, j'avais l'impression d'être dans une chronique d'Arthur Chevalier. Vous savez, il y a toujours des trucs de zinzin. Et en 1128, le duc de Mourmelon bombarda le château du duc de Visdoux avec des sangliers vivants à la catapulte qui détruisirent toute la maison avant d'enduire le duc de miel d'acacia. Ouais, alors bon, c'est ce genre-là, quoi. Alors bon, si t'as peur que des drones ukrainiens attaquent ta maison, n'y va plus.
Déménage.
T'as juste à plus y aller. Y a pas besoin de la détruire par prévention. Enfin, Mathieu, c'est comme si vous donniez des coups de marteau à votre bagnole parce que vous avez peur de la rayer en vous garant. Ça n'a pas de sens. Alors, il a rasé son palais. C'est une manie. Trump aussi, il a rasé la moitié de la Maison Blanche pour se faire une salle de bal. Au moins, quand il sera président, Édouard Philippe, il rasera rien. En même temps, il a plus de poils. Allez, d'autres brillantes analyses avec Sergueï Zhirinov à 8h30, à tout à l'heure.
La situation Ukraine-Russie, bien sûr. Arnaud Demanche, on vous retrouve tout à l'heure, oui, à 8h20. Et Sergueï Zhirinov à 8h30 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, la météo et le journal. Il est 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Très bon réveil à toutes et à tous. C'est l'heure du journal avec Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La canicule doit revenir dès ce week-end avec des conséquences sur vos projets de vacances et de déménagement. Près de Marseille, les pompiers toujours en lutte avec les flammes ce matin. Incendie qui a déjà ravagé plus de 270 hectares. Et puis pas de campagne présidentielle sous bracelet électronique. Marine Le Pen s'exprime sur sa possible condamnation la semaine prochaine.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu est à Marseille cet après-midi.
Et pour présider une cellule interministérielle de crise sur la canicule, les derniers départements viennent tout juste de sortir de la vigilance orange ce matin. Mais la vague de chaleur doit revenir dès ce week-end. Marion Gauthier, vous êtes avec nous en direct ce matin. Et ces canicules à répétition, elles ont un impact sur les projets des Français pour les vacances ou pour acheter.
Oui, pour les vacances, d'abord, les recherches de logements avec climatisation ou piscine explosent. Certaines destinations progresse, près de 15% de réservations en plus en Charente-Vendée, plus 13% en Bretagne, d'après une étude du site PAP. Le nord plutôt que le sud, c'est moins risqué pour Christelle, éprouvée par les chaleurs de la semaine dernière.
Je marchais le soir tard, mais il y a eu des soirs où c'était même pas possible de marcher, tellement à 22h, on avait l'impression d'être dans une cocotte minute. J'ai dit non, c'est pas possible, je prends la Bretagne. Hein. L'air est plus rafraîchissant, je supporterais pas d'être en bas, quoi.
Et pour d'autres, le thermomètre au-dessus des 30 degrés dans leur logement les a poussés à chercher ailleurs, à déménager, comme cette trentenaire, Caroline, qui habite dans le centre-ville de Nantes. Elle a modifié ses critères de recherche.
Pas d'exposition sud, pas de grandes baies vitrées, alors que c'est vrai qu'avant, c'était un peu un des critères de recherche. L'étage, en effet, parce que là, on est au dernier, donc sous les combles, que là, on va être au deuxième étage sur 9, il me semble. On n'emménage que dans un mois, donc on appréhende quand même un petit peu la nouvelle vague qui va arriver. On a juste trop hâte et on a l'impression que ça va un peu changer notre vie.
Le climat qui pèse de plus en plus sur les décisions. Dans une étude Orpi, 77% des répondants disent prendre en compte le risque climatique avant d'acheter un bien immobilier mieux isolé ou dans une région réputée fraîche. L'enjeu pourrait être le choix des futurs retraités, les 50-60 ans qui se projettent et anticipent des canicules à répétition. La Côte d'Azur moins prisée, ça va prendre du temps.
Les explications de Marion Gauthier pour RMC. Après la canicule, les incendies frappent le sud de la France. 6 départements en vigilance rouge ce matin. Dans l'Hérault et l'Aude, de 800 hectares sont partis en fumée. Le feu n'est toujours pas fixé et 350 personnes ont été évacuées hier à Pouzolles-Minervois. Feu toujours actif aussi à Lens-en-Provence, près de Marseille. Plus de 270 hectares ont brûlé. Le feu est toujours actif ce matin. 175 pompiers luttent contre les flammes, dont le lieutenant-colonel Jean-Christian Salikis, en charge des opérations de secours sur l'incendie.
La lutte a été difficile toute la nuit puisque le vent n'a pas calé. Si nous avons pu stabiliser le flanc gauche qui menaçait directement le village de la Farre-les-Oliviers, malheureusement, le flanc droit s'est réactivé. Nous n'avions pas la possibilité de bénéficier du concours des moyens aériens nationaux ou départementaux parce qu'il ne faut pas oublier que la situation dans l'ensemble du sud-est de la France est défavorable. Il y a d'autres chantiers très importants en cours et il faut répartir les moyens aériens de manière à ce que si on répondre au mieux et faire face au mieux à tous ces chantiers simultanés.
L'incendie de Rognac au nord de Marseille a lui été fixé après avoir parcouru 50 hectares.
Pas de campagne sous bracelet électronique.
Et c'est ce que déclare Marine Le Pen à 6 jours du jugement de la Cour d'appel de Paris qui dira si elle pourra se présenter une 4e fois à l'élection présidentielle. Jugement la semaine prochaine, le 7 juillet, sur l'affaire des assistants parlementaires du Front National auquel elle réagissait hier sur LCI.
Non, j'ai pas peur. La peur n'a pas sa place. On peut avoir un sentiment d'injustice, d'être privé d'un combat qui a été et qui reste le combat de ma vie. Mais si je peux être candidate, je serai candidate. Pour peu que je puisse faire campagne. Car s'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ce ne sera pas possible.
Que vous voulez dire? Avec un bracelet?
Bien sûr. Ouais. Je ne peux pas dépendre d'un magistrat pour m'autoriser à aller faire un meeting ou aller sur un marché à Hénabon, vous voyez.
En Ukraine, nouvelles attaques de drones cette nuit à Kiev. Au moins 9 personnes sont mortes et des étages entiers d'immeubles ont été détruits. Les dégâts sont considérables, écrit un responsable militaire ukrainien. 3 nouvelles équipes filent en 8e de finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les États-Unis qui ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 tôt ce matin. Qualification aussi de la Belgique contre le Sénégal. Les Belges étaient menés 2-0 avant d'égaliser dans les dernières minutes et de s'imposer 3-2 en prolongation. Puis l'Angleterre a vaincu la République démocratique du Congo 2-1. La France, elle, prépare son match samedi face au Paraguay. Cet après-midi et 2 jours après la victoire des Bleus contre la Suède, Florent Germain, la sensation, c'est toujours Michael Olise.
Oui, le monde du football est sous le charme de Michael Olise, à commencer par son sélectionneur Didier Deschamps.
Michael enchaîne des prestations de très très haut niveau. Il a une influence qui est très importante. Et puis après, c'est la complémentarité avec les autres joueurs. Quand Michael touche le ballon, passe beaucoup de choses.
Olise, meilleur passeur de la Coupe du Monde avec 5 passes décisives, est l'homme qui fait briller les attaquants et notamment le capitaine Kylian Mbappé.
C'est un joueur exceptionnel qui a un profil, je pense, qui plaît à tout le monde. On a eu cette connexion avec Michael parce qu'on a réussi aussi à être parfaitement coordonnés. Et on est très conscient de la qualité qu'on a devant. On est très content de l'avoir avec nous.
Un crack, un joueur de classe mondiale, disent ses coéquipiers. Les supporters français sont aussi bluffés par Olise.
C'est un joueur extraordinaire.
Il fait tout. Il est partout. Il est à l'aise. Il distribue des passes de malade. Il est incroyable.
On dirait qu'il est au-dessus, qu'il joue avec des enfants presque. Là.
Michael Olise a aussi réalisé un autre exploit hors terrain. Son nom est sans cesse cité par les journalistes étrangers, jaloux du potentiel offensif des Bleus et qui avant n'avait Dieu que pour Mbappé ou Dembélé.
Et puis 3 rencontres attendues
attendu aujourd'hui à suivre sur RMC. Espagne-Autriche pour commencer à 21h, puis plus tard dans la nuit, Portugal-Croatie et Suisse-Algérie.
Quel très très beau programme encore que vous vivrez sur RMC tout au long de la nuit et du morning RMC demain matin. Le quintet pour finir, c'est à l'hippodrome de Paris-Longchamp, 20h15.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, leur favorite est la numéro 8, Mélusine du Houlet. La Outsider est le numéro 9, Comet Shop.
Merci beaucoup Solène, c'était le journal de 7h30 à 7h37. On va accueillir Hervé qui nous appelle de la Sarthe. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour, ça va, ça va.
Ça va, vous avez réagi à cette étude qu'RMC révèle en exclusivité ce matin, étude pour Direct Assurance. 8 parents sur 10 redoutent un accident pour leurs enfants jeunes conducteurs, vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone. L'été, c'est ce moment particulièrement dangereux, surtout pour les jeunes conducteurs qui viennent de passer le permis. Mais alors vous Hervé, vous dites que c'est plutôt les trajets du quotidien qui vous inquiètent.
Oui, alors moi, mes filles ont leur permis voiture, elles ont 20 et 22 ans, elles avaient leur permis voiture, mais elles ont passé leur formation 125 au printemps, donc elles se sont
achetées
chacune leur petite permis
moto.
125, chacune leur petite moto, et oui, c'est plus ces trajets du quotidien qui me fait peur. Pour les vacances, eh ben, ça va être viré en famille, on va partir Le Mans jusqu'aux plages du débarquement, ça fait pas très loin, là je m'inquiète pas parce que moi je serai derrière avec ma propre moto pour assurer la sécurité, et puis maintenant avec les intercoms qui permettent de se connecter à 3 motos, ça permet d'avertir des dangers.
Ah, mais vous partez tous en virée à moto, Hervé?
Tous en virée en moto, ah, oui.
C'est sympa.
C'est, voilà, donc, mais avec des 125, le problème, c'est que des 125, qui plus est, encore en rodage, ben, ce n'est pas des foudres de guerre sur la route. Donc, j'ai plus peur de l'attitude des autres usagers par rapport à ces engins là, qui, entre guillemets, pour eux, se traînent, à les dépasser dans des conditions un peu dangereuses ou à leur coller. Donc,
mais c'est pas par rapport à l'étude, Hervé, c'est pas leur attitude qui vous inquiète particulièrement. C'est plus les autres autour, la circulation,
oui,
et à moto qui plus est.
Voilà, je les vois au quotidien quand elles sortent. Elles sont très raisonnables. J'en ai une qui boit jamais de l'alcool, qu'elle conduise ou qu'elle conduise pas. Les autres s'organisent toujours. Il y a un chauffeur et qui est raisonnable. Quand elles sont parties déjà quelques fois en vacances avec des copines,
ouais.
Là aussi, pas d'inquiétude, tout le monde est raisonnable. Donc là, voilà, ça va être plus, c'est plus ces
au quotidien et comment s'insérer dans une circulation avec les autres, les voitures, les autres motos. Hervé, merci beaucoup de votre appel, d'avoir partagé ce sentiment, partagé d'ailleurs par de nombreux parents. On l'entend au 32-16 et dans vos messages ce matin. Il est 7h39 sur RMC face aux vagues de chaleur. Le monde du sport s'adapte. Bonjour Marina Ferrari.
Bonjour.
Vous êtes la ministre des Sports. On s'apprête à vivre une nouvelle canicule à partir de ce week-end. De nouveaux événements sportifs vont-ils être annulés? Je vous pose la question dans un instant, mais on va aussi parler de la France qui brille. Les Bleus à la Coupe du Monde. Paul Sexas qui s'élance sur le Tour de France ce week-end. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h42 sur RMC et RMC Story. Le monde du sport subit lui aussi la chaleur. Et puis les Bleus qui brillent à la Coupe du Monde. On va en parler avec notre invité. Bonjour Marina Ferrari.
Bonjour Mathieu Béliard.
La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. D'abord un mot, puisqu'on le développe dans nos journaux ce matin. Il y a ce scandale dans le monde de la pétanque. Selon le Parisien, 9 personnes, dont 4 internationaux français, Dylan Rocher, Henri Lacroix, l'élite mondiale de la pétanque, ils ont été interpellés, placés en garde à vue cette semaine, soupçonnés avec leurs proches d'avoir manipulé un match lors des Masters de pétanque 2025, une affaire de paris truqué. Le sport est pourri par l'économie des paris en ligne.
Alors, je veux pas jeter l'opprobre sur tout le milieu du sport, mais en tout cas, les manipulations sportives dans le cadre des paris sportifs, oui, c'est une réalité aujourd'hui dans le monde du sport. Donc, par contre, sur laquelle nous sommes extrêmement vigilants, nous avons l'Autorité nationale des jeux, qui a une cellule d'investigation et de surveillance qui fonctionne d'ailleurs très bien. Il y a à peine 15 jours, j'étais sur place pour avoir le compte rendu opérationnel de la plateforme. On travaille ça, bien évidemment, au niveau mondial aujourd'hui européen, puisque grâce à des algorithmes, on observe aussi ce qui se passe sur les plateformes de jeu.
À ceux qui voudraient tricher ou truquer des paris, vous dites, on vous voit, c'est ça?
Eh ben, on vous voit et puis vous voyez le résultat des enquêtes, puisque là c'est le résultat des enquêtes qui ont été conduites et des observations qui sont menées constamment. Et là, la cellule est en veille opérationnelle très haute, puisque dans le cadre de la Coupe du Monde également, on sait qu'on a des pics qui peuvent intervenir. Donc nous sommes en grande vigilance aujourd'hui. Oui, il faut remettre de l'éthique dans le sport. Donc c'est une des politiques que nous avons en France qui est très offensive sur le sujet pour lutter contre les manipulations. Et notre cellule, elle est tout à fait singulière en France et elle fait cas d'école dans le monde.
Marina Ferrari, on va connaître une troisième canicule en moins de 2 mois, hein, dans les jours à venir, en pleine saison des compétitions, des tournois amateurs, etc. Est-ce qu'il faut craindre de nouvelles annulations d'événements sportifs ce week-end? Combien d'ailleurs ont été annulés ces dernières semaines?
Alors, c'est possible, pour vous répondre sur le fait de pouvoir annuler, de voir de nouvelles annulations, c'est possible. On surveille bien évidemment les conditions météorologiques avec une règle. Quand on est en vigilance rouge, il y a des annulations qui sont pas systématiques, mais qui sont très fréquentes. Quand on est en alerte orange, c'est à l'appréciation aussi aujourd'hui des pouvoirs des des préfets, puisqu'on peut avoir une tension hospitalière, on peut avoir une intensité dans la compétition. C'est ce qui a par exemple présidé à l'annulation de l'Ironman à Nice, puisque c'est des compétitions.
Oui, d'ailleurs, il a été couru de façon pirate par
certains. Oui, et alors ça pose aussi un problème d'ailleurs, puisqu'on voit qu'on a eu un accident mortel justement sur cette course pirate qui a été faite. Donc nous sommes en train, parce qu'on sait bien qu'on va avoir des épisodes de caniculaire qui vont se répéter à l'avenir. Quand j'entends parler d'impréparation, je m'inscris en faux, puisqu'on va tirer les conséquences de ce qui s'est passé, notamment sur l'Ironman, pour établir une doctrine, en fait, pour essayer de mieux accompagner les
organisateurs. Pardon, mais il ne faut pas changer les calendriers sportifs. Je pense que le sport amateur, hein, tous les tournois de foot amateur des enfants, etc., c'est au mois de juin.
Alors, de toute façon, il y a beaucoup de fédérations qui ont décalé les compétitions. Je pense à la Fédération française de rugby, par exemple, vous l'avez vu, qui a décalé ses matchs de plusieurs jours. À l'avenir, il est certain que les calendriers vont devoir évoluer et que les fédérations sont déjà en train de travailler sur des aménagements. On a beaucoup critiqué la pause fraîcheur aux États-Unis. On a eu une pause fraîcheur pour la finale du Top 14. Dans l'avenir, il est probable que nous ayons des pauses fraîcheurs. Après, ce qu'on critique, c'est souvent ce qu'on met dedans, notamment pour nos téléspectateurs. Mais à l'avenir, bien évidemment, les compétitions vont devoir être aménagées.
Combien d'événements ont été annulés ces dernières semaines ?
Plus d'une soixantaine le week-end dernier ont été annulés partout en France. Je crois que c'était une mesure de responsabilité que nous devions prendre. Beaucoup d'organisateurs l'ont fait d'eux-mêmes et d'autres ont dû être annulés par les autorités.
Et un autre point qui vous concerne directement autour des canicules à répétition, c'est la question des noyades. Combien de morts depuis le 18 juin ?
Alors, depuis le 19 juin, nous déplorons plus de 90 noyades, un chiffre qui est inquiétant. Là, on a assisté à une baisse ces derniers jours, donc on voit bien que c'est corrélé aussi au pic de chaleur où les gens vont chercher.
Combien d'enfants dans les 90 ?
Alors, j'ai pas les chiffres exacts.
Mais beaucoup de jeunes, en tout cas.
Alors, en fait, les premiers jours, il y avait beaucoup de jeunes. Ensuite, derrière, ça s'est réparti, puisque il n'y a pas un profil type, si j'ose dire. D'abord, il y a une fragilité sur les très jeunes enfants qu'on ne doit pas laisser sans surveillance, je le rappelle. Ensuite, il y a les jeunes sur des comportements qui sont dangereux. Je saute d'un pont, je vais dans un canal qui n'est pas surveillé.
Oui, il y a un plaque de béton en dessous, on n'a pas bien vu, etc. Voilà. Mais pardonnez-moi, est-ce que vous avez essayé d'aller à la piscine en région les derniers week-ends?
Alors non, je n'ai pas essayé d'aller à la piscine en région.
Ces gamins-là, ils vont se baigner là où c'est pas autorisé, mais en même temps, ils ont besoin de fraîcheur.
Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on travaille aussi et que j'ai lancé un peu il y a quelques mois déjà une réorientation des crédits de l'Agence nationale du sport sur les piscines en priorité. Je tiens à rappeler quand même, j'entends beaucoup de choses. 320 projets de piscines ont été accompagnés en France depuis 2019, mais on sait qu'on a une fragilité sur les piscines, notamment en zone rurale, je le dis, où on a de moins en moins de piscines parce que.
Alors qu'il y a des
il y a un problème, il y a un problème de rénovation.
Alors, pardonnez-moi, sur la baignade non surveillée, on manque de maîtres nageurs aussi.
Alors, on travaille bien évidemment sur l'attractivité du métier de maître nageur. On travaille sur une refonte du brevet national de sauveteurs secouristes aquatiques pour leur donner plus d'autonomie dans la surveillance pour renforcer les maîtres nageurs sauveteurs. Donc, le décret va bientôt être publié pour être opérationnel dès l'année prochaine. C'est une réforme qui était attendue depuis longtemps. Et puis aussi, je pense qu'il faut qu'on redéveloppe l'apprentissage de la nage en eau libre, puisqu'on le voit bien aujourd'hui, nous avons beaucoup d'accidents qui ne sont pas en piscine. Et c'est très différent quand vous nagez dans un lac ou quand vous nagez en piscine.
Si vous savez nager, le choc thermique, ça change pas grand chose.
Eh ben, disons qu'on oublie les réflexes. Okay. Ça, c'est autre chose. Le choc thermique, c'est qu'on oublie les réflexes. Il faut absolument, quand il y a des très fortes chaleurs, on se mouille avant de rentrer dans l'eau. On ne saute pas directement, surtout si on est arrivé sur son vélo par exemple et que le corps est en hyperthermie, on ne rentre pas dans l'eau comme ça.
Bon, Marina Ferrari, on va parler des choses qui nous réjouissent un petit peu. Vous étiez au premier match des Bleus France-Sénégal.
Oui.
Est-ce que Emmanuel Macron va aller voir les Bleus aux États-Unis ?
Mais écoutez, moi j'espère que nous serons présents à la finale.
Ouais.
Le 19 juillet, je pense qu'on a tous envie de.
Si le président y va, c'est pour la finale.
Alors,
avant.
J'ai pas l'agenda du président de la République, donc je vais pas me prononcer.
Vous y retournez quand ?
Mais en tout cas, moi j'ai prévu d'y retourner. Pour la finale, si jamais nous sommes
vous
en finale.
Vous êtes confiante, il y a France-Paraguay.
Le sport
samedi.
Reste le sport. Moi, je suis assez superstitieuse, donc...
Vous leur avez donné des cailloux magiques.
Ah non, c'est pas des cailloux magiques, ce sont des étoiles, je vous rappelle.
Non, mais attendez, je voudrais rappeler pour nos auditeurs, parce que vous êtes allé à Clairefontaine avec le président de la République, leur offrir des pierres de protection que vous avez offert aux joueurs avant leur départ. Vous allez pouvoir répondre.
Ça a beaucoup
des
peu étonné.
Des pierres porte-bonheur. Non, je sais pas, mais expliquez-vous. Ouais.
Je vais vous expliquer. Non, en fait, j'ai voulu leur offrir un petit porte-bonheur parce que c'est vrai, voilà, je voulais leur faire un petit cadeau personnel. Ça avait vocation à être rendu public, bon ça l'a été, c'est pas grave. Non, j'ai joué sur la symbolique de l'étoile, puisqu'ils vont chercher une troisième étoile, donc je leur ai offert des petites étoiles, une bleue, une blanche.
C'est pas de l'ésotérisme.
C'est pas de l'ésotérisme.
Non, parce que le canard enchaîné qui a révélé l'info, affirme qu'Emmanuel Macron s'est démontré médusé par cette...
Non, pas du tout, parce que j'avais averti le président de la République avant de cette petite attention. La troisième étoile sera donc rouge, bleu, blanc, rouge, et vous savez, dans la tradition japonaise, on offre des étoiles en guise de chance et d'amour.
Bon, il y a le Tour de France France qui se lance samedi à Barcelone. On a tous envie de croire que Paul Sexa sera le premier Français à remporter le Tour depuis 41 ans. Je vous demande pas si vous lui avez offert des pierres.
Non, j'y ai pas pensé.
Ça pèse sur le vélo.
Voilà, ça pèse sur le vélo, c'est vrai.
Vous allez sur place d'ailleurs à Barcelone?
Non, je ne serai pas à Barcelone pour le départ, donc là, le 4. En revanche, je serai sur une étape de montagne.
Merci beaucoup, Marina Ferrari.
Merci à vous. Merci à vous.
Toujours plus sympa, les étapes de montagne. Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, les annulations qui sont passées, vous avez donné un bilan. Et puis 90 morts de noyade depuis le 19 juin, en l'occurrence. On l'apprenait ce matin avec vous, Marina Ferrari. Merci beaucoup.
Merci.
Il est 7h50. Dans un instant, la voix de gauche sur RMC. C'est vous, Cécile Duflot. Bonjour, Cécile.
Bonjour, Mathieu.
Ancienne ministre, faut-il supprimer l'excuse de minorité? Ce qu'on appelle l'excuse de minorité, c'est ce que demandent certains à droite, à votre avis?
Ça n'existe pas vraiment. En revanche, c'est vrai qu'on peut moins condamner les plus jeunes. Et c'est une bonne chose. Même si c'est difficile à dire, je vais essayer d'expliquer parce que c'est un sujet très sérieux. Il faut lutter vraiment contre la violence des mineurs et c'est pas en supprimant cette atténuation de peine.
A tout de suite sur RMC, il est 7h50.
Apolline Matin.
7h52, le bonus RMC, Martin, c'est le retour du groupe qui avait signé le tube de l'été dernier.
Forcément de cette chanson Soleil Bleu, la musique était partout l'été dernier, peut-être même un peu trop pour certains, particulièrement sur les réseaux sociaux pour accompagner les photos, les vidéos de vacances, souvent les gens les pieds dans l'eau évidemment, qui est signé du duo Bleu Soleil avec la chanteuse Louisa. Et bien le groupe électro est de retour cet été avec une nouvelle chanson. Faster, ça ressemble un petit peu à ce qu'on entendait l'été dernier, on retrouve les mêmes rythmes. C'est peut-être encore la musique qui va accompagner toutes les stories de vos amis cet été, désolé. L'été dernier, Soleil Bleu était resté en tête des ventes pendant 5 semaines, 115 millions d'écoutes sur Spotify, une nomination aux victoires de la musique. Pour le moment, ce nouveau titre a été écouté 19 000 fois.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h53 sur RMC et RMC Story. La voix de gauche, on est jeudi. C'est vous, Cécile Duflot. Bonjour, Cécile.
Bonjour, Mathieu.
Ancienne ministre et patronne d'Oxfam. Cécile, selon un sondage Elab pour BFM TV, plus de 8 Français sur 10 se disent favorables à ce que l'on appelle parfois un peu rapidement à la suppression de l'excuse de minorité pour les 16-17 ans. Après la mort de Louis, 17 ans, tabassé par des jeunes à Narbonne la semaine dernière, le débat est relancé.
Oui, le débat est relancé, donc je vais essayer de mettre un peu de raison et de calme dans un débat extrêmement difficile. Et c'est normal parce que l'émotion est tellement vive. La mort de ce jeune homme, elle est bouleversante. Je pense évidemment à sa famille et ses meurtriers ont son âge. Donc c'est vrai que quand on dit excuse de minorité, c'est-à-dire en gros qu'on pourrait excuser des plus jeunes sous prétexte qu'ils sont jeunes, on se dit il n'y a pas de raison, c'est pas normal, ils doivent payer. Sauf que, en réalité, il s'agit pas d'une excuse, mais d'une atténuation de peine qui est automatique avant 16 ans. Et entre 16 et 18 ans, un mineur peut être condamné comme un majeur. C'est pour ça qu'on dit que la majorité judiciaire, elle est à 16 ans. À 16 ans, on peut être condamné comme un adulte. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on est adolescent, on est encore immature, y compris cérébralement immature. C'est d'ailleurs pour ça que ça existe, parce que, et la science l'a prouvé, les jeunes ne se comportent pas, n'ont pas les mêmes réflexes, n'ont pas le même processus cérébral que les adultes.
Et comment on peut parler d'immaturité quand on voit un tel déchaînement de violence?
La science... D'abord parce que le cerveau d'un adolescent, il est biologiquement immature. L'inhibition des impulsions, c'est-à-dire le fait de se retenir, la planification, l'évaluation des conséquences, le contrôle des émotions, tout ça c'est pas terminé. C'est-à-dire le cerveau est encore en formation. C'est un peu comme un enfant de 1 an qui marche, mais il marche pas comme un enfant de 10 ans. Et ben un adolescent, ça ne réfléchit pas, ça ne réagit pas. Si on voulait mettre un peu de sourire, on pourrait dire ça ne range pas sa chambre comme un adulte. C'est-à-dire que c'est encore une personne en construction et c'est biologiquement prouvé, plus l'effet de groupe qui produit exactement le type de phénomène qu'on a pu voir, parce que ça pèse aussi sur la construction du caractère des adolescents. Donc il y a une réalité biologique et une réalité sociale. Ce sont des jeunes qui ne sont... Le processus de construction n'est pas terminé. Et donc la justice prend en compte cette particularité.
Alors elle le prend en compte, c'est très bien, mais on peut comprendre, Cécile, cela dit, la volonté de sévérité.
Oui, c'est tellement choquant, évidemment qu'on peut comprendre ça. Le premier réflexe, c'est qu'il faut les punir aussi sévèrement. Donc je le redis, ils peuvent être punis aussi sévèrement que des adultes. La justice peut prendre en compte le fait qu'ils soient mineurs, mais pas forcément. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a un recul là-dessus. On a une attitude complètement différente avant 1945 à l'égard des adolescents et des enfants. On était extrêmement sévère. Même très jeune, on pouvait mettre des enfants de 4 ans dans des maisons de correction et surtout les jeunes de cet âge-là, ils allaient dans des bagnes d'enfants. Et on sait ce que ça a produit. Ça a produit davantage de violence, davantage, c'est ce qu'on appelait d'ailleurs l'école du crime. En fait, on a fait cet essai-là. On l'a fait de façon massive en France, dans d'autres pays. Et maintenant, on a du recul et on a des études et on montre que ça ne fonctionnait pas mieux.
Ça ne fonctionnait pas mieux.
Non, ça ne fonctionnait pas mieux, c'était même pire. C'est-à-dire que ça aggravait la violence. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence chez les jeunes, elle provient souvent de la violence de l'enfant. C'est souvent des enfants qui ont été violentés. J'aime beaucoup cette phrase. Quand un enfant tape, demande-toi si lui-même n'est pas tapé. Mais surtout, surtout, là aussi, il y a plein d'analyses qui montrent que le choix de l'éducation, le choix d'une sanction qui est réparatrice, le choix de l'avenir, c'est ce qui évite la récidive. Parce que c'est ça le but, c'est de faire baisser la violence. Et plus on prend tôt les enfants qui peuvent avoir des actes violents, plus on évite le passage à l'acte. Parce que j'ai bien entendu les parents de Louis qui disent « on ne veut pas que ça se reproduise ». Si on ne veut pas que ça se reproduise, il faut utiliser des méthodes qui marchent. Alors je sais que c'est difficile et j'espère que les gens qui m'écoutent ou qui me regardent, ils vont prendre ce temps de recul, de se dire « est-ce que ça marche de mettre tous ces mineurs en prison ou la rééducation militaire ?» Non, ça ne marche pas. On a essayé, ça ne marche pas. Et en faisant différent, ça peut marcher. Et donc je voudrais là parler de la protection judiciaire de la jeunesse. Ceux qui ont cette mission, c'est une branche de la justice et c'est la branche la plus malmenée. C'est vraiment le parent très pauvre de la justice, les éducateurs. Et c'est là qu'il faut investir si on veut justement qu'il y ait moins de violence et qu'il n'y ait plus d'autres morts de jeunes tués par d'autres jeunes.
Merci beaucoup. Cécile Duflo, la voix de gauche d'RMC. Demain, place au débat avec face à vous l'avocat Charles Consigny, la voix de droite. Dans un instant, le journal de 8 heures avec les incendies du sud du pays à la une. Nous serons en direct de Narbonne où 800 hectares sont partis en fumée. Juste après, l'économie avec vous, Pierre Rondeau. Acheter un jeu vidéo dans un magasin, c'est bientôt terminé.
Oui, Sony annonce qu'il ne produira plus de disques physiques pour ses consoles PlayStation. C'est une petite révolution.
Et dans quelques toutes petites secondes, la météo de Géraldine Demory. Pour une fois assez classique, ça fait longtemps. Nuages au nord, soleil au sud. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC. Excellent choix. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le sud de la France en proie aux flammes donc toujours ce matin avec trois gros incendies en cours en ce moment dans l'Aude, dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 1000 hectares de végétation ont déjà brûlé. On va faire un point complet. Voilà dans quel contexte Sébastien Lecornu se rend à Marseille aujourd'hui pour préparer la France à la troisième canicule déjà redoutée. Vous allez l'entendre dans les hôpitaux. Et puis tu triches ou tu pointes? On va vous raconter ce matin ce séisme qui secoue le monde de la pétanque, des soupçons de match truqués, il y a des stars de ce sport qui ont été interpellés.
Les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin dans le sud de la France.
Oui, plusieurs incendies font rage depuis hier après-midi. Les autorités avaient prévenu avec, vous le savez, 6 départements en alerte maximale pour les risques de départ de feu. Alors le plus important, il a pris dans ce qu'on appelle le Minervois, cette région à cheval entre l'Aude et l'Hérault. Au moins 900 hectares de pinèdes ont déjà brûlé, des maisons évacuées, une fumée qui se voit loin à la ronde. On reçoit vos photos ce matin sur le WhatsApp RMC. Vous êtes sur place, envoyé spécial pour RMC, Philippine Boulet. L'info ce matin, c'est que le feu n'est toujours pas fixé. Alors, on entend le vent, on n'entend pas Philippine Boulet. Philippine, qui n'est pas avec nous ce matin, donc pour cet incendie dans le Minervois, qui a déjà brûlé 900 hectares de végétation, de pinèdes plus précisément. Un des feux qui touche en ce moment le sud de la France. Alors, ça brûle aussi dans les Bouches-du-Rhône, avec là deux gros incendies dans les Bouches-du-Rhône depuis hier. Il y en a un feu à Rognac, 50 hectares qui ont brûlé. Ce feu est fixé ce matin, mais on sent la fumée jusqu'à Marseille. Ne soyez pas surpris ce matin si vous vous réveillez. Et un feu aussi à Lançon de Provence, 275 hectares qui ont brûlé. Ce feu s'est réactivé ce matin, attisé par le vent et la sécheresse de la végétation, qui évidemment est un terreau très favorable pour ces feux. C'est ce que nous dit ce matin, on lui a téléphoné, Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
Des feux qui commencent extrêmement tôt dans la saison, avec les effets de la canicule. C'est très difficile, puisque ce n'est pas uniquement le pourtour méditerranéen, c'est aussi des départements comme Lyon, Garonne qui ont été touchés hier, la Seine-et-Marne, la Nièvre, la Marne, la Loire. C'est très complexe parce qu'on est sur à chaque fois des appels de renfort de zone d'une autre zone. Il y a des sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui en transit du nord de la France vers le sud de la France. On est dans des feux d'espace qui viennent jouer avec l'interface entre le milieu urbain et le milieu forestier, ce qui peut rendre difficile la situation parce qu'on a la nécessité absolue de pouvoir protéger les personnes et protéger des biens.
Et c'est ce qui s'est passé hier dans le Var où un feu a pris au beau milieu de la ville de Fréjus, provoquant l'évacuation de plus de 2000 personnes et quand même de 6 campings, donc en pleine période estivale. Alors c'est d'ailleurs depuis le sud de la France et depuis Marseille précisément que le Premier ministre Sébastien Lecornu va diriger aujourd'hui une nouvelle cellule de crise interministérielle consacrée aux fortes chaleurs et à la troisième canicule là, qui arrive dès ce week-end, nous dit déjà Météo France. Et Louis Salé, vous nous dites qu'elle est redoutée cette canicule dans les hôpitaux, sous tension déjà après les fortes chaleurs du mois dernier.
La semaine dernière, dans le service de Cynthia, infirmière à l'hôpital de Chartres, il n'y avait que 3 ventilateurs pour 29 patients.
On les reprenait pour les déplacer dans d'autres chambres quand on estimait, entre guillemets, que c'était assez pour le patient. C'est quand même inhumain, quoi. On se demande pourquoi ce patient-là plutôt que l'autre. C'est choquant et c'est des choix qui sont très compliqués à supporter, forcément.
Des climatiseurs mobiles ont depuis été commandés, mais une nouvelle canicule risque de fragiliser les équipes, craint Frédéric Adnet, chef du SAMU de Paris.
Nous, on a aussi besoin de récupérer nos forces. Alors, une semaine, ça me paraît trop court. Le personnel est fatigué, extrêmement stressé, parce qu'on a vécu quand même beaucoup de décès, d'arrêts cardiaques.
Les hôpitaux peuvent, si besoin, faire appel à des étudiants, des soignants intérimaires, mais pas question de rappeler le personnel en vacances. Didier Guidoni dirige l'hôpital de Vierzon.
Les congés d'été pour les soignants, on ne les remet pas en cause. Il faut qu'ils puissent en profiter et on est vigilants.
Il espère aussi que le bâtiment tiendra le choc d'une nouvelle vague de chaleur. La semaine dernière, la climatisation des blocs opératoires de son hôpital est tombé en panne.
Alors le dérèglement climatique va-t-il devenir dans ce contexte le sujet de la campagne présidentielle à venir? Ce sera en tout cas la thématique abordée dans la matinée par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon qui propose un nouveau découpage des régions. Pour en finir avec la carte de 2015, les Insoumis, à Lucas Laubert, les Insoumis veulent créer ce qu'ils appellent des éco-régions en fonction cette fois des fleuves et des cours d'eau.
Oui, alors les contours exacts de ces éco-régions sont encore à l'étude, mais imaginez par exemple Marseille dans une grande région du sud-est avec Lyon et le Jura, la Bretagne réunie avec les Pays de la Loire jusqu'au Massif central, des régions pensées autour des bassins versants des fleuves pour plus de cohérence écologique, explique Claire Lejeune, députée insoumise de l'Essonne qui travaille sur ce projet.
Une agence de l'eau aujourd'hui, elle va investir à un endroit donné pour dépolluer, etc. Si vous avez en parallèle un préfet de région qui décide de valider l'installation d'une usine en amont du cours d'eau, vous voyez bien que ça va contrecarrer complètement les efforts faits pour dépolluer et assainir l'eau.
Une région dessinée autour des bassins versants des fleuves permettrait donc, selon les insoumis, de simplifier les politiques écologiques. Ces éco-régions ne s'occuperaient que d'écologie et tous leurs moyens financiers seraient dirigés vers cet objectif. Pour Grégoire Delastéry, président délégué à la région Île-de-France, les régions ont d'autres missions qu'il ne faut pas oublier.
Les régions, elles parlent de mobilité, elles parlent de développement économique. Dans le projet de LFI, les régions ne s'occupent plus que de transition et laissent tomber tout le reste. Ça marche pas. C'est pas cohérent.
Pour l'élu, les régions agissent déjà pour la transition écologique, elles manquent simplement de moyens.
Et il faut remettre de l'éthique dans le sport. Voilà donc la réaction ce matin sur RMC de la ministre des Sports, Marina Ferrari, après le coup de tonnerre dans le petit milieu de la pétanque, qui est donc secoué par les soupçons de matchs truqués. 9 personnes interpellées en début de semaine dans le Var et en Gironde. Parmi ces 9 personnes figurent des stars du milieu. Dylan Rocher, Henri Lacroix, ceux qui jouent à la pétanque connaissent forcément ces noms. C'est un tournoi il y a quelques mois qui intrigue, hein, Constance Bostoen.
Le 4 septembre dernier, pendant les Masters de pétanque, l'une des compétitions les plus relevées au monde, l'équipe ultra favorite s'incline en quart de finale 13-4 contre une autre bien moins expérimentée. La défaite est inattendue, elle fait le bonheur de quelques parieurs qui avaient misé gros. Trop gros pour ce type de compétition. L'autorité nationale des jeux est aussitôt alertée et découvre que ces parieurs sont en fait des proches des boulistes qui viennent de perdre le match. Grâce à ces mises, ils auraient dû empocher 60 000 euros. Mais une enquête est ouverte et ce mardi matin, 9 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, 4 joueurs membres de l'équipe de France. Toutes ont été entendues et sont soupçonnées d'escroquerie en bande organisée et corruption active et passive.
On est à 2 jours du départ du Tour de France à Barcelone. Vous le savez, cette année, il y aura la traditionnelle présentation des 23 équipes en fin de journée. On verra qui gagne à l'applaudimètre, si c'est Paul Sexas, par exemple. C'est une première depuis 2007. Tiens, la France ne sera pas le pays le plus représenté dans le peloton. Pour une fois, on est battu par la Belgique. Il y aura 30 coureurs français et 31 coureurs belges.
RMC,
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bah puisqu'on en parle, la Belgique, tiens, qualifiée dans la douleur cette nuit pour les huitièmes de finale. 3-2 contre le Sénégal avec un but au bout de la prolongation. C'était chaud aussi pour l'Angleterre qui a sorti la République démocratique du Congo 2-1 grâce à un doublé d'Harry Kane dans le dernier quart d'heure. Et c'était plus tranquille hein, cette nuit pour les États-Unis qui ont sorti la Bosnie 2-0 dans une belle ambiance que vous entendez. Wow. C'était ici dans une fan zone à Washington. Les Américains donc qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale de leur Coupe du Monde. Les trois pays hôtes hein, sont qualifiés d'ailleurs. Le programme de la soirée de la nuit prochaine est génial. On va revoir l'Espagne à 21h sur RMC contre l'Autriche. Les Espagnols parmi les favoris qui n'impressionnent personne pour l'instant. Le Portugal aussi contre la Croatie, ce sera dans la nuit à 1h du matin. Le duel, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Et ce sera encore une nuit blanche ou alors un réveil très très tôt la nuit prochaine pour les supporters de l'Algérie qui jouera à 5h du matin contre la Suisse.
Match qu'on vous fera vivre en fil rouge, très rouge. Enfin, non, il est à 5h pile. Donc dans le morning RMC demain matin avec Élise et toute l'équipe, on va vous faire vivre Algérie-Suisse avec évidemment nos équipes puisqu'on est radio officielle de la Coupe du Monde. Je crois que vous commencez à le savoir. On a quand même une quarantaine de personnes envoyées là-bas. On a même envoyé Martin Bourdin à une époque, figurez-vous. Essayez d'expliquer la règle du hors-jeu aux Américains. Moi, je vois plein de vidéos sur Internet. Ils n'ont pas compris, Martin.
Je ne veux pas avoir un très bon accent anglais, je pense.
Merci beaucoup, merci Quentin. Alors, on passe à l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Pierre Rondeau.
Bonjour Mathieu.
Le géant du jeu vidéo. Vous avez reconnu, tiens, un petit blind test jeu vidéo. GTA. On était chez Sony. Le géant du jeu vidéo Sony qui l'a annoncé hier, plus aucun jeu vidéo ne sera vendu physiquement à partir de janvier 2028 pour ses consoles.
Oui, hein, Mathieu, et sachez-le, c'est une petite révolution. Et ça m'énerve. Les jeux vidéo, c'est un secteur économique qui pèse 6 milliards d'euros sur le territoire national et 202 milliards à travers le monde. Mais cette décision va tout changer. C'est la fin du support physique, c'est la fin des prêts et des échanges de jeux vidéo sur CD. C'est la fin du marché de l'occasion dans les magasins spécialisés. Et c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère, la fin d'un état d'esprit où le physique prédominait, où l'on pouvait conserver nos jeux vidéo et les collectionner comme des livres ou des DVD. Maintenant, faites place au dématérialisé. Il faudra télécharger le jeu.
On fera la chronique sur les DVD un autre jour parce qu'apparemment il y a encore des DVD.
Quel mépris.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette décision?
Alors Sony déclare s'adapter aux nouveaux profils, aux nouvelles habitudes des gamers. Aujourd'hui les ventes digitales ont dépassé les ventes physiques. Rien qu'en France où l'on compte 40 millions de joueurs et 1,6 million de consoles vendues en 2025, près de 70% des ventes de jeux vidéo se font aujourd'hui au format digital, un ratio qui descend à 50% pour les nouveautés. Mais donc, cela aura des conséquences sur le marché de l'occasion. Il est voué à disparaître. De la même manière, les habitants des zones blanches ou zones grises où la connexion Internet est compliquée seront impactés par cette décision.
Ah oui.
Et cela entraînera aussi des frais supplémentaires, des coûts supplémentaires pour les gamers, avec des gros jeux consommateurs de mémoire, comme la prochaine méga production GTA 6. Il faudra augmenter sa capacité de stockage. On est à 650 go en moyenne pour une PS5 et un jeu fait entre 90 et 100 go. Donc il faudra acheter de la mémoire, des coûts supplémentaires, plus de l'occasion, plus rien, c'est la fin des jeux vidéo.
Bon, c'est une vraie question, la revente hein, surtout, on a tous grandi en revendant les jeux.
Non, moi,
je ne prête pas, je vends.
Non.
Les chiffres de l'énergie, on repasse à nos habitudes, les chiffres de l'énergie, on les commence ce matin, Pierre.
Alors, le samplon 95, 1,93€, il augmente, le gazole, 1,90€, lui-même aussi, il augmente, le baril de pétrole, il baisse, 71,08€, et le gaz, 42,77€ par rapport à 43€ hier.
Merci beaucoup, Pierre Rondeau, il est 8h11. Mais dans un instant, Arnaud Demange va venir nous faire rire avec l'actualité. Et puis alors, 8h30, le face-à-face, l'invité de Marie Chantrey, c'est l'ancien officier du KGB, Sergueï Girnov. L'Ukraine est-elle en train de reprendre la main dans sa guerre contre la Russie? Les attaques de drones de Kiev qui déstabilisent en tout cas Moscou, on y vient sur RMC et BFM TV. Et puis juste après, le choix de la rédaction. Face aux vagues de chaleur, les Français adaptent leurs vacances. La Normandie et les locations avec piscine ont la cote. Et puis le journal de la Coupe du Monde avec Virginie Fulpin, ça c'est en direct à 8h50. Voilà le programme.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour Arnaud Demange, il est avec nous.
Bonjour Mathieu.
Salut Arnaud.
Bonjour Élie.
Salut Arnaud.
Bonjour Martin.
Salut Arnaud.
Et Géraldine Demory.
Bonjour.
La météo. Je suis très déçu, Gérald. Vous nous remettez une canicule. Voilà. Ah, j'ai mis des cigales pour que ce soit plus sympa et plus supportable, mais on va souffrir. La canicule, je suis sûr que c'est un coup de com' de François Hollande, en fait. On va bientôt avoir des affiches dans toutes les rues avec sa tête où il y aura marqué « Moi, quand j'étais président, il pleuvait. Voilà. » Hollande 2027.
pour une France qui pleut.
Alors ce week-end, il fera 55 degrés à Paris, 62 à Marseille, 74 à Lyon, 111 à Cannes. Hydratez-vous, il faut boire environ 8 litres d'eau par heure. Et la chaleur a des conséquences économiques. Alors la fréquentation des salles de cinéma, par exemple, a bondi de 68%. Aux caisses de ciné, on est tous là. Vous voulez voir quel film ? De Gaulle, c'est long. C'est long, on va pouvoir dormir au frais.
Il y a deux épisodes.
Ouais, on peut toute la nuit. Moi, je me sens con, le titre de mon nouveau spectacle, c'est Beau tout nu. J'aurais dû l'appeler La salle est climatisée. J'aurais fait un... Ah tiens, tant qu'on parle de grands comédiens français...
Oui.
Ça va le melon.
Ouais. Isabelle Adjani a été condamnée en appel à 10 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée. Ouais. C'est la reine Mago maintenant en fait.
Oh.
Il va falloir passer à la caisse. J'ai l'impression qu'on va bientôt l'avoir dans les Tuches 6 ou Camping 22 pour renflouer les caisses. Ce soir, au menu, des frites. J'aime les frites, tout type de frites. Alors, on n'attend pas Patrick pour les frites. Je vais prendre mes billets. Je veux voir ça.
Alors mardi sur notre antenne, le député socialiste Philippe Brun s'est présenté à la présidentielle.
PS, c'est la folie. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et trop de candidats. On est ridicule. Bref, Philippe Brun se présente, il devient donc le 232e candidat français au total. Mathieu, présentez-vous à ce train-là, soyez pas timide, tout le monde y va, c'est la mode du moment.
Mais il n'est pas socialiste.
Non mais en général, il y a plein de candidats. Et puis voilà, Philippe Brun, en termes de notoriété, vous le dépassez. Hein. Il y a plus de Français qui vous voient tous les jours que lui. Hein.
C'est une vraie question.
En tout cas, depuis que vous êtes plus sur France Info, il y a plus de Français que... Bon alors, est-ce que ça prend bien la candidature Philippe Brun ? Alors j'ai fait une petite revue de presse, je vous propose un jeu. Est-ce que c'est un vrai titre d'article sur la candidature de Philippe Brun ? Attention, c'est parti. Un mix entre un dîner de cons et un jour sans fin.
Oui, je l'ai vu.
Oui, non, c'est un vrai titre.
Je l'ai vu ce titre.
C'est dur. C'est le Parisien. Élysée, deux points. Le ridicule n'a jamais tué personne, hormis la gauche.
Bon, c'est un vrai titre.
Ah ouais, ça sera un édito.
Nicolas Dupont-Aignan, deux points. Enfin, un mec qui fera plus, moins que moi. Non, c'est pas vrai. Présidentiel, deux points. Olivier Faure s'étonne de l'apparition de nouveaux candidats chaque matin.
Oui,
c'est vrai. Oui, c'est un vrai titre. Au PS, il y a désormais plus de candidats que de militants.
Oui.
Non, c'est un faux.
J'aurais pu l'écrire. C'est très crédible.
Non, franchement, à la place de Philippe Brun, j'ouvre la presse ce matin, je fais un démenti, moi. Je dis non, mais c'était pas moi sur RMC. C'était Canteloup avec une perruque et une fausse barbe. Bon, c'est crédible, hein, personne connaît sa voix. Ni sa tête, d'ailleurs. Mais là, il y a un paquet de candidats. Alors, j'ai découvert aussi l'existence de Lydie Massard. Je vous en ai déjà parlé, Lydie Massard. C'est la candidate de l'Union démocratique bretonne.
Oui, c'est vrai, vous en avez parlé.
Oui. Son programme, c'est donc... Ah, voilà. C'est la Marseillaise au Bignou. Son programme, c'est donc exterminer les Normands, récupérer le Mont-Saint-Michel, organiser des distributions de beurre salé en Palestine et au Soudan pour aider la population. Elle est eurodéputée européenne de gauche et cuisinière dans un lycée professionnel à Pontivy. La dame de la cantine, elle est candidate à la présidentielle. Même elle. Là, pour le coup, face à Trump, elle aura l'autorité nécessaire. Tu vois, la dame de la cantine, ça rigole pas. Tu sors pas de table tant que t'as pas signé l'accord de paix.
Mais j'ai plus envie.
En tout cas, Manu Le Chypre me disait « Moi, je vais voter pour elle. » Une bretonne qui a l'habitude de cuisiner pour 300 personnes, on va bien s'entendre.
On va reparler de cette explosion dans un immeuble à Monaco qui visait un oligarque ukrainien. Le suspect n'a toujours pas été retrouvé.
Oui, alors ce qui explose en général à Monaco, c'est les bouchons de champagne, c'est les liftings, c'est quand un oligarque oublie sa femme mannequin dans sa voiture en plein cagnard. Là, les lèvres et la poitrine explosent. Les forces de l'ordre monégasque sont sur les dents, mais alors... Les forces de l'ordre à Monaco, c'est surtout les carabiniers du prince. Ils sont 124 et c'est principalement une fanfare. En fait, dans tout Monaco, t'as des clarinettistes et des saxophonistes qui débarquent chez les suspects. Bonjour monsieur, fanfare de Monaco, le brigadier tromboniste d'accord. Je vous présente l'adjudant trompettiste Taillandier. On est à la recherche d'un suspect. Ouais, je sais, il est là-bas au 29 de la rue. Oh, ok. Les gars, on y va, tous ensemble! Merde, normalement j'ai une musique qui démarre, c'est con! Bah j'avais mis la musique de Bénil,
Les yeux d'Emily, ça marche!
Ah, voilà! Voilà,
ah, c'est oui, la musique!
Bon bah du coup ça flingue ma chute, du coup je la fais pas, mais on va sortir sur la musique, c'est plus sympa. Allez, courage pour l'enquête et à demain.
On va faire le générique de Benny, les tous courir en rond autour du studio. Merci Arnaud Demange, qu'on retrouve en podcast et en tournée partout en France, à Toulon, hier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Frémin-Merlebac, Épinal ou Gaillac. Un spectacle RMC.
Exactement.
Exactement.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Olivier est en ligne avec nous depuis Lyon. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tous. Oui,
vous
oui.
avez réagi à cette info que nous donnait la ministre des Sports ce matin, 90 noyades depuis le 19 juin.
Bah oui, parce que enfin moi, ce qui m'embête un peu dans tout ça, c'est que c'est indéniable. Faut que les jeunes, ils apprennent à nager le plus tôt possible. Mais je veux dire par là, c'est que j'aurais tendance à dire, il faut aussi qu'ils apprennent à anticiper et puis apprivoiser l'élément eau. Parce que moi, qui ai pratiqué le triathlon, je peux vous garantir que en piscine, quand vous avez 2 mètres de fond, que vous avez vos lunettes, c'est pas du tout pareil que quand vous êtes en.
Oui,
en
lac, vous dites la baignade en eau vive, en eau naturelle, plutôt qu'en piscine.
Peut-être un départ en piscine parce que c'est là qu'on apprend, mais après je veux dire il faut apprivoiser et apprendre à apprivoiser cet élément.
Et c'est là que vous avez raison Olivier, parce que c'est pas tant une question de nage uniquement, mais c'est une question d'obstacles qu'on va croiser, de chute d'un pont, parce qu'on n'a pas analysé le fait qu'il y avait pas la profondeur. Merci Olivier. Non mais vous avez raison, il faut absolument qu'on développe ça. C'est inacceptable qu'on ait 90 morts parce qu'il fait chaud, de noyade, j'entends 90 morts des enfants qui cherchaient tout simplement à se rafraîchir. Des jeunes ou des enfants souvent. Merci Olivier de votre appel au 32-16. Dans un instant sur RMC, BFM TV, l'invité de Marie Chantresse est l'ancien officier du KGB Sergueï Girnov. La situation, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, évidemment au programme. 8h21.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Solène Gardré.
6 départements en vigilance rouge incendie ce matin. Un incendie est en cours à Alençon-Provence, près de Marseille. Plus de 320 hectares déjà partis en fumée. 175 pompiers luttent ce matin contre les flammes. L'impressionnant incendie dans l'Hérault et l'Aude a lui été fixé ce matin. 900 hectares ravagés. 350 personnes avaient dû être évacuées hier à Pouzol-Minervois et Mayac. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est à Marseille cet après-midi pour présider une cellule interministérielle de crise sur la canicule. Les derniers départements en vigilance orange sont repassés en jaune. Des ministres des Sports, Marina Ferrari. En Ukraine, nouvelles attaques de drones cette nuit à Kiev. Au moins 9 personnes sont mortes et des étages entiers d'immeubles ont été détruits. Les dégâts sont considérables, décrit un responsable militaire ukrainien. La France toujours en surpopulation carcérale. Aucune mesure d'envergure nationale n'a été prise, épingle ce matin la contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans un avis au journal officiel, les prisons françaises comptaient près de 89 000 détenus il y a un mois. La Coupe du Monde avec 3 nouvelles équipes qui filent en 8e de finale. Bosnie-Herzégovine 2-0 cette nuit. Qualification aussi de la Belgique contre le Sénégal 3-2. Puis l'Angleterre a vaincu la République démocratique du Congo 2-1. 3 rencontres attendues aujourd'hui. Espagne, Autriche, Portugal, Croatie et Suisse, Algérie à 5h du matin. La météo pour finir, ça sera la journée la plus fraîche de la semaine. Aujourd'hui, on attend jusqu'à 20 à Brest, 24 à Lille, 25 à Paris et quand même jusqu'à 36 à Montpellier.
C'était le rappel des titres. Merci Solène Gardré. Dans un instant, sur RMC et BFM TV, le face-à-face. Marie Chantrey reçoit Sergueï Girnov, ex-officier supérieur du KGB et auteur des Auxiliaires du mensonge.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sergueï Girnov.
Bonjour Marie.
Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les téléspectateurs de BFM vous connaissent bien désormais. Ex-officier supérieur du KGB, expert en relations internationales et auteur récemment des Auxiliaires du mensonge. Trump, Epstein, Poutine, un ex-commandant du KGB décrypte Poutine justement. On a besoin de vous ce matin pour votre connaissance de la Russie, de ses secrets, et comprendre aussi la nouvelle stratégie de Vladimir Poutine, si d'ailleurs elle est nouvelle. La nuit était redoutée en Ukraine, à Kiev plus particulièrement. D'ailleurs, on l'a appris, Zelensky était en déplacement en Irlande. Il est revenu en urgence dans son pays suite à un briefing de ses services de renseignement. Et donc, cette nuit, à nouveau meurtrière, notamment sur la capitale Kiev, des bombardements entendus, des tirs de missiles, de drones également, bilan provisoire 9 morts. Et ces images aussi, Sergueï Girnov, ces images de la guerre, de cette population obligée de fuir dans les abris des métros bondés pour tenter de se protéger justement de ces missiles. La vengeance de Poutine est en marche.
La vengeance de Poutine était en marche, et particulièrement cette nuit, parce que Zelensky justement était en Irlande pour la réunion de changement de présidence dans l'Union européenne, et donc en fait c'est l'Irlande qui prenait sa présidence. Zelensky était donc en fait dans ce lieu hautement stratégique et important. Il a eu beaucoup de rencontres, et donc du coup Poutine, à mon avis, il a employé plus de moyens précisément pour ça.
Il a profité, vous dites, de cette occasion, peut-être.
C'est une vengeance. C'est pas profité. Il a fait exprès. Il a fait exprès parce que vous savez, la Russie a les moyens de varier ses frappes. Et on sait que parfois les nuits c'est une centaine de drones sur les civils en Ukraine. Parfois c'est 700. Parfois c'est jusqu'à 1000. Et donc là, c'était une attaque particulièrement importante sur la ville de Kiev, mais aussi sur Kharkiv, aussi sur Dnipro, sur Zaporijia, sur plusieurs autres villes ukrainiennes.
Œil pour œil, dent pour dent, pardonnez-moi cette expression, mais l'Ukraine, on le sait, on va y revenir, a entamé aussi une forme de campagne de 40 jours, de frappe massive et qui fonctionne, puisqu'elle touche des sites stratégiques russes et les conséquences sont en cascade, notamment des pénuries de carburant. Plus il est accoulé, plus Poutine est dangereux. C'est les observateurs qui le disent, certains en tout cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
Je le croyais aussi, mais finalement, regardez, avec le temps, moi personnellement, j'ai changé d'avis. Parce que on disait, si l'Ukraine prenait une arme occidentale, d'abord l'artillerie, puis après les missiles, puis après les chars, puis après les avions, puis après les missiles de croisière, etc., à chaque fois, c'est une ligne rouge. Et on craignait que Poutine répondent à cette ligne rouge d'une manière assez importante, et en réalité, il s'est rien passé. Et en fait, les Ukrainiens actuellement, côté ukrainien, ont dit on n'a plus peur de toucher la Russie au plus profond de ses capacités.
Et ça se prouve d'ailleurs dans les frappes récentes. Ça va de plus en plus loin, de plus en plus profondément. C'est ce que vous nous dites encore ce matin.
Ça c'est quelque chose. Et aujourd'hui, c'est passé apparemment. C'est pas les Ukrainiens qui le disent, ce sont les Russes qui le disent. Donc côté russe, on dit que les Ukrainiens ou les Américains qui ont peut-être essayé le nouveau missile FP9 ukrainien, c'est un missile balistique de production uniquement ukrainienne, et donc il y aurait un missile comme ça qui aurait été abattu dans le ciel de la ville de Moscou.
Oui, parce que ce que l'on apprend aussi également, Kiev, l'Ukraine plus largement, peut-elle réussir son pari ? On parlait de cette campagne de 40 jours, parce qu'elle n'est pas en reste dans ses frappes. On se remémore, c'était il y a quelques semaines, mais Kiev a réussi notamment à toucher des raffineries situées aussi loin que Tiumen en Sibérie, à près de 1900 kilomètres du front. C'est ça aussi la force aujourd'hui de l'Ukraine. Capacité à aller toucher de plus en plus loin en Russie.
La force de l'Ukraine, c'est de produire son propre armement. L'Ukraine produit actuellement 50% de ses besoins militaires. L'Ukraine, cette année, va produire 10 millions de drones. 10 millions de drones militaires.
Hein. Toujours aidés par les Européens.
Bien évidemment.
Américains également ont un peu serré la vis, mais cette aide est indispensable.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, Zelensky a souligné hier dans la réunion pour l'Union Européenne, mais aussi pour un certain nombre de parties, y compris par exemple pour la Suède, qui a pris la troisième place dans l'aide à l'Ukraine, avec 9 milliards déjà livrés et 4 milliards qui arrivent. L'Allemagne qui occupe la première place avec 11 milliards d'euros de l'aide, et puis la Norvège avec 10 milliards ou 8 milliards. Et l'Ukraine produit ses propres drones. Maintenant, l'Ukraine produit plus de drones. L'Ukraine envoie plus de drones sur la Russie que la Russie. Vous savez, on a dépassé ces seuils, et l'Ukraine déjà a causé un tel dégâts en Russie que 83 régions de Russie maintenant ont des pénuries d'essence.
Et on y vient, Sergueï Girnov, vous, l'ex aussi supérieur officier du KGB, qui avait côtoyé dans son temps Poutine, qui connaissait aussi la philosophie russe. On a vu ces images. ces images de la population russe faire durant des heures et des heures, et encore aujourd'hui, hein, faire la queue pour avoir du carburant, cette colère qui monte. On parlera aussi de la colère des militaires. Là aussi, c'est assez inédit dans un pays où la propagande joue un rôle majeur. Poutine peut-il faire face à la colère de sa population quand on voit ce qui est en train de se passer, de ces images qui font le tour du monde ?
Poutine, moi je suis persuadé que Poutine ne changera pas d'avis. Ça veut dire que c'est une personne obtuse. Il était déjà. Je rappelle toujours cette histoire de son entrée à l'école, à l'académie des renseignements militaires, à l'école d'Andropov en 1984. D'ailleurs, on est entré la même année. Et en 1985, on l'a pas retenu pour le service de renseignement à Moscou parce qu'on lui a dit c'est quelqu'un de dangereux qui peut prendre des décisions qui sont dangereuses pour lui. Et pour le service. Et le service de l'espionnage n'a pas voulu de lui, il l'a renvoyé à Leningrad. Et donc, Poutine, c'est quelqu'un qui est différent, par exemple, de Trump. Trump, à un moment donné, a décidé d'arrêter sa guerre contre l'Iran, même si on le critiquait, même si on lui a dit, il a tout perdu, c'est une paix honteuse, etc.
Sans doute encouragé par son opinion publique aussi, qui commençait, et son propre camp, qui commençait à le lâcher. Poutine, vous dites, en l'espèce, est très différent parce qu'il n'est pas sensible à... mouvement de son opinion, mouvement de sa population.
Parce que son opinion publique actuellement, il y a des sondages. Bon, vous savez, la sociologie en Russie, c'est quelque chose qui est très difficile d'avoir. Mais on dit, il y a plusieurs sources qui l'ont affirmé, que 80% des Russes actuellement ne veulent plus de cette guerre. Cette semaine, il y a une information qui a été publiée. Il y a 133 000 demandes sur le réseau Yandex, sur le moteur de recherche russe Yandex. Quand est-ce que cette guerre va terminer. Et donc, les Russes en ont marre. Mais maintenant que la guerre est venue en Russie, maintenant qu'ils rencontrent les pénuries, eux, avec l'essence. Et l'essence en Russie, c'est quelque chose qui est très important. Parce que
le troisième exportateur mondial. Sergueï Ergineov, de pétrole, avec des mesures qui ont été prises, du rationnement, l'interdiction d'exporter, et sans doute appel à des pays comme l'Inde pour tenter justement de pallier à ce manque de carburant.
C'est exactement ça.
On l'a vu encore une fois, j'en reviens à ces images qui sont assez folles, qui font le tour du monde. Ça vous dites, du point de vue dans la psyché de Vladimir Poutine, ça n'a aucune espèce d'incidence ?
Non. Ça n'a aucune espèce d'incidence. Il suffit de le regarder comment il a fermé. Vous savez, dimanche dernier, il a fait 3 apparitions. Il a donné une interview à Pavel Zarubin, son correspondant préféré.
Avec des questions toujours très grinçantes, avec beaucoup d'ironie, évidemment.
Oui. Mais vous savez, 6 minutes de cette interview ont été coupées du site de Kremlin.
Parce que
Poutine a dit que il y avait aucun accord à Anchorage avec Donald Trump. Et il y a quelqu'un au Kremlin qui a coupé ça. Mais pour les importations d'essence, c'est quelque chose d'abominable pour la Russie.
Avec la sémantique de Poutine, j'y reviens.
Ouais.
Reconnaître des problèmes. Oui, nous avons des problèmes. Nous les reconnaissons, nous y répondons. Mais nous assurerons sans aucun doute la sécurité du pays et de nos citoyens, reconnaissant aussi des pénuries. Là aussi, d'un point de vue du vocabulaire, il y a quand même une évolution.
Il y a une évolution parce qu'il ne peut pas, il ne peut plus nier. Parce que toute la Russie est dans les queues pour l'essence. 80 régions sont concernées. Il y a des régions où il y en a plus du tout. Les gens commencent à se battre. Bientôt, ils vont commencer à se tirer dessus. Donc, Poutine ne pouvait pas ne pas répondre. Mais en revanche, il a dit rien de critique. Il a dit Novak, mon vice-premier ministre, il règle ça, tout va bien. Novak a dit point de pénurie, c'est juste un tout petit peu. Parce que c'est l'été,
un épisode parmi tant d'autres. Mais est-ce que vous pensez que la population russe aujourd'hui peut se retourner contre son président, ou on est dans des fantasmes d'occidentaux qui regardons ça finalement avec nos propres lunettes et nos propres fantasmes?
Non, je crois que la population russe surtout ne va pas se retourner parce qu'elle veut la paix et par idéologie. Mais en revanche, les questions de la vie de tous les jours, on a vu ça au Kazakhstan. Vous savez, juste avant l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, en janvier 2022. Le 1er janvier 2022, au Kazakhstan, ils ont augmenté le 1er janvier. Vous savez, les gens ont fêté le jour de l'an. Ils se réveillent et ils apprennent que le gouvernement a augmenté de quelques centimes le prix de gaz au Kazakhstan. Ça a donné une révolte au Kazakhstan, révolte armée. Il y a eu des tirs, il y a eu des morts, il y a eu même des forces armées d'ODKB, c'est cette fameuse organisation poutinienne entre certaines des anciennes républiques soviétiques. Et donc, ça nous montre que pour une question de vie de tous les jours, les gens peuvent se révolter. Mmh. Et donc ça, Poutine est obligé de le savoir.
Ça fait partie du champ des possibles. On parle de la population, j'évoquais aussi son armée. Une vidéo est devenue virale en seulement quelques heures, déjà visionnée des millions de fois. On y voit un ex-soldat russe ayant participé au combat en Ukraine qui alerte le président, qui affirme que l'armée va se retourner et retourner les armes contre le Kremlin face caméra encore une fois. Là encore une fois, on est dans l'inédit. Peut-être que jamais des militaires n'avaient osé publiquement prendre la parole comme ça et montrer un nominem son président.
On n'est pas dans l'inédit.
On n'est pas dans l'inédit.
On n'est pas dans l'inédit parce que je vous rappelle qu'il y avait Général Ivashov qui, le 31 janvier 2022, trois semaines avant le début de la guerre, a exhorté Poutine de ne pas le faire.
Mais quatre ans plus tard, là, on a complètement changé.
Cette guerre actuellement, Poutine est 6 mois plus que Staline a mis dans sa guerre contre Hitler. Mmh. Et Staline était à Berlin, Poutine n'arrive pas à conquérir Donbass. Et donc, bien évidemment, et il y a autre chose, ça veut dire qu'il y a les critiques dans la société. Et donc, cet appel de ce militaire, d'ailleurs, c'est pas un rebelle, c'est comme Prigogine. Je vous rappelle, il y a trois ans, jour pour jour, quasiment, Prigogine a fait aussi son putsch.
Après sa marche, en effet, avortée, qui avait fait trembler là aussi le Kremlin. Et vous faites bien de le rappeler, mais juste, beaucoup de Russes, notamment chez les familles de militaires, dénoncent les conditions d'enrôlement de ces jeunes Russes, la plupart du temps, ou pour beaucoup d'entre eux, pas assez formés, les conditions aussi d'exfiltration lorsqu'ils sont blessés. Les autorités du Kremlin sont conscientes des critiques des militaires et donc, je ne sais pas si nos téléspectateurs sont au courant, mais des cahiers de doléances ont été ouverts pour qu'ils puissent alimenter, faire remonter leurs critiques auprès des autorités, mais ces cahiers ont été piratés et certains sont rendus publics. Et là, encore une fois, les critiques en interne sont d'une violence rare. Encore une fois, vous dites, ça Poutine, ça ne peut pas le faire vaciller.
Parce que si vous regardez très très attentivement ces cahiers de doléances, personne ne dit cette guerre, c'est un crime, il faut arrêter cette guerre. Non, ils disent nous sommes prêts à continuer cette guerre, mais il nous faut des conditions, des bonnes conditions pour mener la guerre. Ce militaire, il n'a pas critiqué Poutine, il n'a pas dit t'es un criminel, mais un autre blogueur l'a dit à sa place. Mais les militaires sont très prudents par rapport à ça. En fait, Lounev, ce Pavel Lounev, déjà, il a changé d'avis. Sa femme a publié une intervention hier en disant tout va bien, il soutient notre cher président Vladimir Poutine, etc., etc.
Sans doute a-t-il entre-temps reçu peut-être quelques remontrances, voire menaces.
Mais là, il a été arrêté pour 11 jours. Il attend d'ailleurs le jugement. On l'a pas transféré à Moscou. Il a été jugé à Voronej. C'est sa dernière phrase qui est la phrase mortelle, parce qu'il a dit l'armée peut tourner les armes contre Poutine. Ça, la Russie l'a connu. Mmh. La Russie l'a connu en 1916-1917. Ça a donné la révolution d'octobre.
Et de ce point de vue-là, peut-être cette réaction en chaîne de Poutine lui-même sur sa sécurité. Là, encore une fois, vous connaissez ça par cœur. D'ailleurs, j'en permet de revenir sur le bilan à Kiev cette nuit. On est à 13 morts, j'évoquais 9 tout à l'heure. Le bilan augmente au fil des minutes. Juste sur sa conception de la sécurité, c'est l'un des hommes les plus protégés de la planète. On apprend ces dernières heures qu'une partie de ces villas ont été, du moins peut-être rasées, en tout cas ont disparu des cartes. Est-ce pour améliorer sa sécurité? En tout cas, on s'interroge. Sur ces yachts également, François Clémenceau l'évoquait sur notre plateau tout à l'heure, qui sont déplacés. C'est quoi? C'est une paranoïa poutinesque où il y a vraiment des risques autour de sa personne lui-même?
C'est la paranoïa, parce que Poutine est paranoïaque, ça c'est prouvé, tous les gens qui le connaissent le disent et le confirment, d'ailleurs ça s'est aggravé pendant la crise de la Covid, mais en même temps effectivement ces yachts, on a parlé de sa campagne, sa prétendue campagne, parce que je vous rappelle quand même que Kabaeva n'est pas mariée avec Poutine est officiellement solitaire, célibataire.
Oui, on ne lui connaît pas de compagne ou d'épouse officielle, c'est ça?
Non. Oui. Non. Mais en revanche, effectivement, il y a deux yachts qui se déplacent en Turquie. Mais je rappelle aussi que la Turquie, c'est un pays de l'OTAN. Mmh. C'est très très intéressant. Qu'est-ce que ces yachts vont faire? Peut-être il y a peut-être des pourparlers.
Pays de l'OTAN, l'OTAN à nouveau menacé, ce chiffon rouge. Ouais. à nouveau agité, là encore une fois, par le maître du Kremlin. On est dans la grammaire de la dissuasion uniquement, ou vous pensez, là encore une fois, qu'il puisse aller plus loin ?
À mon avis, il peut aller plus loin, parce que là, récemment, ce qu'il vient de faire, il a fermé 7 postes frontières avec 3 pays de l'OTAN, c'est-à-dire la Finlande et les 2 pays baltes, Lettonie et l'Estonie. Donc, en réalité, il y avait déjà quasiment pas de trafic sur ces postes, mais le fait d'avoir fermé ces postes, le fait d'avoir hier une réunion opérationnelle avec de conseil de sécurité sur les questions de Kaliningrad. Vous savez, cette exclave russe qui est une enclave dans l'Union européenne. Ça pose beaucoup de questions. Et en fait, la logique est très simple. Poutine considère que les Européens et les Ukrainiens, c'est le même front. Et donc, ouvrir une deuxième brèche quelque part en Europe, ça veut dire que les Européens vont dire ça se passe chez nous, maintenant on ne veut plus donner des armes à l'Ukraine. C'est ça le calcul de Poutine.
Le calcul et sa stratégie. Et dans le même temps, il le dit, nous sommes prêts, nous attendons, une fois les événements terminés, notamment dans la phase chaude sur le dossier iranien, nous attendons des négociateurs américains. Alors qu'il y a moins de 15 jours, et on sait que Poutine et le président américain se parlent régulièrement, tentant de le... Comment qualifier, en tout cas, de nuancer ces attaques contre l'Ukraine? Ça n'a aucun effet.
Aucun effet parce que c'est du blabla. Ça, c'est du blabla pour Trump. Zelensky.
Blabla de la diplomatie, non? On peut appeler ça comme ça? Ou ça ne sert vraiment absolument à rien?
C'est du blabla. Parce que Poutine, vous savez, il ne veut pas négocier avec Zelensky. Zelensky, depuis 2 mois, propose des pourparlers à plusieurs reprises. À chaque fois, quand il peut, il propose des pourparlers. Et il propose d'arrêter la guerre. Poutine ne veut pas ça. Et Poutine veut négocier avec Trump. Et non pas avec l'Ukraine.
Directement, en effet. Ouais. Et on verra si un jour cela arrive. Dernière question très rapide. On a appris hier les dates de l'élection présidentielle française de 2027. Elles se tiendront le 18 et le 2 mai prochain. La crainte des ingérences étrangères, plus précisément russes. On sait que la Russie a œuvré par le passé. Est-ce que vous pensez que ça fait partie aussi de la stratégie de Poutine d'influer sur ces élections et ce scrutin?
Je le pense parce que ça a eu déjà lieu. Donc la dernière élection, tout le monde reconnaît ça. On a des doutes sur l'élection américaine, mais sur l'élection française, on n'a pas de doute.
Sergueï Girnov, merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 et vous êtes toujours bien sûr BFM TV et RMC.
Et à 8h47, merci Marie Chantrey. On va passer au Mondial de Virginie dans un instant avec ces Français qui disent pardon Kylian. Ils ont critiqué Mbappé avant le Mondial et ils s'en mordent les doigts. Et puis on va s'intéresser à ces Français qui réfléchissent à changer de destination de vacances, voire même à déménager en cause des fortes chaleurs. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC et bien seulement sur RMC. On est à la radio ensemble, j'allais dire RMC Story. Pardonnez-moi. Le Mondial de Virginie, c'est avec vous, Virginie Fulpin. Bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, avec toutes les dernières infos sur le Mondial, bien sûr. Mais avant cela, le choix de la rédaction, Marion Gauthier, reporter RMC. Bonjour Marion. Bonjour. On s'attend à de nouvelles chaleurs à partir de ce week-end, ça on vous l'a dit. Et avec cette nouvelle canicule, certains adaptent déjà leur plan de vacances.
Oui, ce qu'ils peuvent, en tout cas sur le site de réservation booking.com, la part des recherches de logements avec climatisation a triplé. Avec piscine extérieure, c'est plus 85% depuis la semaine dernière. Les destinations changent aussi. Les recherches pour Dieppe et Trouville-sur-Mer ont plus que doublé. Même si, on le rappelle, la canicule a aussi touché la Bretagne. Christelle estime qu'elle y prend moins de risques que dans le sud-ouest où elle comptait partir en août. La quinquagénaire éprouvée par les chaleurs de ce début d'été.
J'ai vraiment le sentiment d'étouffer. Je marchais le soir tard, mais il y a eu des soirs où c'était même pas possible de marcher, tellement à 22h, on avait l'impression d'être dans une cocotte minute. J'ai dit non, c'est pas possible, je prends la Bretagne. Déjà, on sera en bordure d'eau, l'air est plus rafraîchissant. Je supporterai pas d'être en bas, quoi.
Les réservations dans ces régions refuges sont souvent moins chères. Christelle y gagne au change. 1000 euros pour 15 jours dans un appartement breton contre plus de 1500 plus bas, dit-elle, dans le sud-ouest.
Mais alors, si plus de Français vont vers le nord, c'est qu'il y aura moins de monde dans le sud?
C'est plutôt que les réservations dans le sud progressent moins vite. Le littoral reste une destination privilégiée. Un peu plus d'inquiétude, en revanche, dans les terres, en Dordogne. David Ross y est responsable de l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration.
Pour le moment, les réservations, on a des taux d'occupation qui sont environ en baisse de 5%. Après, on a pas mal de réservations qui arrivent un peu en dernière minute. Ça va être très conjoncturel, ça va être en fonction de ce qui se passe autour d'eux. Et forcément, ils regardent aussi par rapport au climat. On sait qu'il y a des touristes qui vont privilégier des destinations un petit peu plus fraîches. ça va pas en s'améliorant. Hein.
Alors Marion, s'adapter à la chaleur, ça va même plus loin que simplement changer sa destination de vacances.
Oui, c'est adapter son logement, voire en changer, déménager après des nuits à se réveiller toutes les heures, à se doucher trois fois, après des jours à 34 degrés dans son appartement du centre-ville de Nantes, Caroline a cherché une nouvelle location.
Et on a trouvé en une semaine, pas d'exposition sud, pas de grande baie vitrée, alors que c'est vrai qu'avant, c'était un peu un des critères de recherche. L'étage, en effet, parce que là, on est au dernier, donc sous les combles, que là, on va être au deuxième étage sur 9, il me semble. On n'emménage que dans un mois, donc on appréhende quand même un petit peu la nouvelle vague qui va arriver. On a juste trop hâte et on a l'impression que ça va un peu changer notre vie.
Voilà, le climat qui pèse de plus en plus sur les décisions. Dans une étude Orpi, 77% des répondants disent prendre en compte le risque climatique avant d'acheter un bien immobilier. C'est 80% dans le sud-est ou dans les villes littorales exposées au risque de submersion, par exemple.
Alors après, les changements de région, ça va prendre du temps.
Oui, c'est ce que m'explique la présidente de PAP particulier à particulier. Pour elle, c'est la génération des 50-60 ans qui va être déterminante, ceux qui réfléchissent au lieu de leur retraite.
On doit se projeter longtemps en avance. Bah là, pour le coup, on sait que les canicules vont empirer. Et c'est vrai qu'historiquement, il y en a énormément qui allaient passer leur retraite sur la Côte d'Azur. Il est possible que là, la génération qui a actuellement 50 à 60 ans fasse un choix différent. Ils se disent, quand je serai retraité, en plus je serai voilà, potentiellement âgé, donc sensible à la chaleur. Et donc la Côte d'Azur, ça va poser problème. Et peut-être qu'ils feront une partie d'entre eux plus importante qu'avant, choisira des régions plus tempérées.
Et pour le moment, le sud est plus exposé, mais aussi mieux équipé pour résister aux fortes chaleurs.
Évidemment. Merci Marion Gauthier, reporter RMC. On connaît trois nouveaux huitièmes de finalistes de la Coupe du Monde depuis hier soir, l'Angleterre, la Belgique et les États-Unis.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. Le journal de la Coupe du Monde ce matin avec vous. L'équipe de France de retour au sommet.
Alors je parle pas des matchs de fou et de la magie que les Bleus nous offrent depuis le début de cette Coupe du Monde, mais de quelque chose de beaucoup plus prosaïque, le classement FIFA.
Ah,
mais là ça va être difficile. Tina, on peut pas. L'équipe de France est à nouveau première depuis hier devant l'Argentine et toc, c'est toujours ça de pris.
Ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé avant la Coupe du Monde font leur mea culpa.
Pardon Kylian, c'est même le nom d'un site créé par Frédéric Kopp qui s'en voulait trop quand Kylian Mbappé a marqué son premier but lors du premier match contre le Sénégal.
Je me suis dit mais pardon Kylian quoi, pardon quoi. Et je me suis dit, mais je suis sûr que je suis pas le seul, il faut qu'on s'excuse tous.
Alors, il a créé le site, pardon Kylian, je vous raconte un peu, il y a un QCM qui s'appelle Mon acte de contrition, et puis tu coches des cases, plus tu en coches, plus ta honte grandit. Par exemple, j'ai dit que Kylian devait être sur le banc, ou j'ai dit que Kylian nous ferait perdre. Et puis ensuite, on appose sa signature sous le texte suivant. Moi, citoyen, citoyenne de la République, je reconnais avoir douté de Kylian Mbappé, fleuron de notre nation, génie du ballon rond. Bref, on lui présente nos excuses. Enfin, je dis nous, c'est pas vrai, pas moi. Non,
pas vous, pas moi, mais on a des noms. Les Suédois ne s'excusent pas d'avoir perdu contre les Bleus, mais alors ils sont assez mauvais perdants.
Vous savez pourquoi la Suède a perdu contre l'équipe de France ?
On vient d'en parler, Mbappé, tout ça.
Ah non, c'est pas du tout ça, c'est à cause de l'arbitrage.
Ah. C'est toujours sur moi que ça prend des complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop.
C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas photo pourtant entre les deux équipes. En tout cas, plusieurs joueurs se sont plaints en disant que l'arbitre sifflait plus contre la Suède que contre la France à cause de son statut de favorite. Bon, allez, parfois, sous le coup de la déception, on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. C'est bon, c'est pas grave.
Allez, même la NASA supporte l'équipe américaine.
Eh oui, l'agence spatiale a des arguments imparables. Si jamais Team USA remporte la Coupe du Monde, elle enverra un ballon de foot sur la Lune. Si ça motive pas les joueurs américains, ça. Sachant que la NASA a déjà envoyé un ballon dans l'agence spatiale internationale à l'occasion de cette Coupe du Monde. On veut finir par organiser une Coupe de l'Univers avec une équipe qui représente la planète Terre. Honnêtement, pour la ligne d'attaque, si on joue contre des aliens, on prend la ligne de l'équipe de France et c'est bon, non ?
Ouais, après, il va falloir leur expliquer là, le hors-jeu dans ces dimensions-là aux Américains, ça va être compliqué. Alors, les sites de rencontres marchent très très bien pendant cette Coupe du Monde. Ah bon ?
Je vous propose, si votre moitié est partie assister à la Coupe du Monde sans vous, vous vous éloignez un peu de votre radio. Tinder, par exemple, a 15% d'utilisateurs en plus depuis le début de la compétition, 25% de swipes supplémentaires, 60% de matchs en plus aux États-Unis. Je parle pas des matchs de foot, hein. Si ça peut vous rassurer, les plus actifs sur les sites sont les supporters qui viennent de Grande-Bretagne, très étonnant ça, du Brésil et de Thaïlande, pas de France. Et puis, je vous rassure aussi, si vous criez « je t'aime » à Kylian Mbappé quand il marque un but, ça compte pas, ça c'est autorisé.
Je lui tire les mots bleus.
Ah oui, on l'aime Kylian.
Bah oui, on l'aime, on a le droit de lui dire.
Merci Virginie Fulpa, la suite des 16e de finale à suivre sur RMC, notamment ce Suisse-Algérie à 5h demain matin, en direct dans le Morning RMC, on va vous le faire vivre, vous ne manquerez rien, vous vous branchez dès 5h sur RMC, n'hésitez pas. Dans un instant les GG, quel est le programme mon cher Alain Marchal?
Eh bien, bonjour. Nous reviendrons sur la tragédie du chat Gina, le chat du journaliste Olivier Bin Kimoun, qui s'est retrouvé sur les voies et qui a été décapité par un train. On reparlera de ça, de la terreur du canal Saint-Martin Hamza, que les policiers sont finalement venus interpeller et il a été placé en garde à vue. Franchement, est-ce que ça le mérite? Arnaud Montebourg sur le podcast de notre chroniqueuse GG Flora Guebali. Arnaud Montebourg qui dit « Jean-Luc Mélenchon est un fou furieux, il faut l'arrêter ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Laurent Wauquiez qui trahit Bruno Retailleau pour aller vers Édouard Philippe. Et puis les émeutes chez Lidl pour acheter, devinez quoi? Des ventilateurs, climatiseurs, des rafraîchisseurs d'air. Bravo Lidl, mais franchement, est-ce que c'est pas un peu la honte de se battre pour acheter un climatiseur? 32-16 pour venir discuter de tout ça avec les grandes gueules.